plus qui dit ça, mais en gros, quand tu penses à l'argent et que t'es en studio, il y a Dieu qui sort de la pièce. Bah, c'est pareil pour l'audience. Si t'es en studio et il y a l'audience dans la pièce, bah, la magie, elle s'en va. Et pour autant, elle est indispensable, l'audience. Mais quand on parle de la création pure, la musique, je pense qu'il faut juste penser à l'émotion et oublier ça.
Puis c'est tellement cathartique déjà de faire ses morceaux, d'écrire sa vie, de réfléchir. Puis après, t'as le label, puis après, t'as le management, puis après, t'as le machin. Si tu commences à penser à tout le monde, bah, tu fais de la pop. Non, je...
Monte le son, c'est le podcast des passionnés de musique. Bienvenue à tous, ça va Daz?
Ça va et toi Salman, la pêche?
Écoute, chaudement, ouais. On rentre dans cette deuxième canicule.
Ouais, en est-on réellement déjà sorti en fait finalement?
Mentalement non.
Non.
Très ouais. Clairement, la souffrance est toujours présente.
C'est la dernière émission de la saison.
C'est la dernière.
Donc il y a double deuil.
Ouais.
La fin de la saison.
Ouais.
Et la sortie de l'Allemagne de la Coupe du Monde.
Absolument. Ah, mais ça, oui, ça fait longtemps déjà.
J'ai pleuré.
Est-ce que tu penses que la France a gagné? Est-ce que quand on sortira cet épisode,
ah,
on saura qui a gagné la Coupe
du Monde? Ah, donc ça va être un prono, évidemment.
Qui a gagné la... Est-ce que vous suivez un tout petit peu le foot?
Bien sûr.
La France.
Qui gagne la Coupe du Monde?
Je suis pas du tout triste que l'Allemagne soit sortie.
Ah oui. Qui a gagné la Coupe du Monde?
C'est la France qui a gagné la Coupe du Monde face à l'Argentine 2-1.
Très bien.
Waouh. Ok.
La France en finale sûre. Après, ouais, il peut y avoir un drame en finale.
Non,
un drame, genre l'Argentine, c'est ça que t'es en train de nous dire?
Je sais pas. Il y a un truc qui est trop évident là, en fait. C'est okay. Sûr qu'on est extrêmement au-dessus de tout le monde, tu vois. Allez, la France, hein. Mais bon, c'est l'absurdité de l'existence.
Il y a Messi
là,
qui triche apparemment. C'est ça les rumeurs actuellement.
Est-ce que la
diplomatique, toi. Ça.
Tu suis... Moi, je suis pas complotiste et j'ai la double nationalité. Mais bon, l'Argentine a gagné la dernière, donc là, je suis pour la France, je pense. Et Messi a gagné la sienne, c'est bon. En fait, j'étais pour Messi et j'étais pas pour l'Argentine. Là, je suis pour la France, cette année. Ouais.
Eh ben, je propose un épisode foot d'Az pour terminer cette saison. Je montre le sort. Bon, et effectivement, on est fin juillet. Pendant un petit mois, on ne sera pas là, mais on reviendra à la rentrée, évidemment, pour une nouvelle saison. Et là, épisode exceptionnel d'Az. On est hyper bien entouré. Vous avez commencé déjà à l'entendre. Nous sommes avec trois artistes.
Wow, trois, c'est incroyable.
Oui, ils sont tous auteurs, autrices, interprètes, compositeurs, compositrices.
Ok.
On est avec Marguerite Thiam.
Actrice.
Ah ouais, mais alors là, Marguerite, c'est n'importe quoi. En plus, elle est réalisatrice, actrice et tout. Ça va, Marguerite?
Ça va super, et toi et vous, et tout le monde ici?
Écoute, très heureux d'être avec
toi. Bienvenue.
Ben ouais.
Moi de même.
On est aussi avec Zedjoun Pavarotti.
Exact.
Ça va?
Ouais, tranquillos.
Faut que tu parles bien devant ton micro. Mets-toi bien avec nous.
Ça va.
Tu peux le bouger un peu si tu veux et tout.
Non, mais ouais, ça tout va très très bien. Nickel chrome. Depuis un mois et demi, ça va hyper bien.
Et on est aussi avec l'Onepsi. Ça va, l'Onepsi?
Super. Très content d'être ici.
Bon, bah nous aussi. En plus, tu écoutes de temps en temps l'émission.
Ouais.
Trop bien, ça fait plaisir. Bon, on va discuter d'Az, du travail de ces trois artistes. Pourquoi? Pourquoi?
Mais oui,
parce qu'il se trouve que, globalement, on peut tous un peu vous mettre... on peut dire que vous faites de la pop, au sens large. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça, mais au sens large...
On a déjà dit que c'était pas insultant de dire qu'on fait de la pop.
Hein. Non, puis en plus, on pourra en discuter de la définition de la pop, d'ailleurs.
Ouais. On est toujours pas d'accord, mais...
C'est vrai. Ouais, c'est compliqué, en vrai.
Bah pour moi, c'est la musique qui se vend. Donc après, le jour où l'accordéon se vend, l'accordéon est pop et boum.
Peut-être, en vrai. On en reparlera, mais il se trouve que Marguerite Thiam, Zedjoun Pavarotti et l'Onepsi, ils sont aussi très inspirés par le rap. Voire, ils ont fait du rap, tu vois. Ou en tout cas, des trucs dans les codes du rap. Donc on va aussi s'inquiéter sur comment le rap, c'est vrai, on l'a observé ces dernières années, infuse dans la pop, comment il travaille, etc. Puis globalement, comment on gère des influences. Comment à la fois on est dans l'air du temps, et en même temps on se perd pas trop, tu vois, en étant un peu trop girouette. Genre je fais un album tel truc, puis après en fait, on se dit, le mec, est-ce qu'il est pas un peu opportuniste, tu vois. C'est compliqué, le positionnement parfois, en tant qu'artiste.
Mais toi, pour toi, c'est le rap qui infuse dans la pop.
Ouais, et
moi, je dirais que c'est la pop qui infuse le rap.
En fait. Oh, les deux, tellement les deux.
Les top lines, tous ces trucs-là, pour moi, c'est plus le rap qu'a pris.
Possible, hein.
Bon.
T'avais d'accord avec ça?
Je sais pas.
Moi non plus.
On va rentrer dans les détails.
J'ai pas compris, j'avoue.
Je vais vous présenter déjà rapidement chacun. Je vais commencer avec Lindo, l'Onepsi. L'Onepsi, on découvre... c'est quoi, c'est milieu, fin des années 2010 à peu près?
Ouais, 2015, ouais, premier morceau sur YouTube, en vrai.
Ah, t'as mis sur YouTube tes premiers morceaux?
Enfin non, SoundCloud.
Ok.
Mais je vais pas... Enfin si, c'est vrai, le début c'était sur SoundCloud, ouais, mais 2014-2015.
Okay.
Ouais.
Il y a une mixtape aussi en 2017, Les premiers sons du reste de ma vie, qui regroupait justement tes productions de l'époque. Très vite, deux albums qui se succèdent, Sans dire adieu en 2018 et Après la pluie en 2021. Ça se passe plutôt bien pour toi à ce moment-là, il y a un peu de couverture médiatique, etc. Et très vite, on te colle, enfin je le dis comme ça, tu me dis si ça te convient, mais l'étiquette un peu genre, t'es un peu rap poétique, tu vois, un peu...
Ni plus ni moins.
Un truc ouais. que les médias mainstream aiment bien en général ouais, comme étiquette, tu vois. Ouais. On pourra en discuter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, dans tes prods, dans ta façon aussi d'interpréter, etc., c'est vrai qu'il y a des codes rap, indéniablement. Il y a aussi une appétence littéraire, on le sent effectivement, ta façon d'écrire et tout. Mais il y a une remise en question, c'est qu'après ton album de 2021, bah le texte devient un peu moins central dans ta musique.
Ouais.
Et surtout, tu te dis, bah en fait, je sais pas si le rap c'est vraiment mon identité. Enfin, j'ai envie de faire d'autres trucs en tout cas.
Ouais, complètement.
Et là, tu sors un nouvel album. Enfin, tu l'as sorti il y a quoi, il y a un mois, un truc comme ça.
Ouais.
On retrouve quasiment pas de code du rap d'ailleurs. Peut-être qu'en réalité, il y a des choses qui infusent, on en discutera. Mais...
Sur 30 minutes d'album, je pense qu'il y a une minute où je rappe. Ouais, mais c'est peu, c'est 2%, quoi, 3%.
Ouais. Ouais, c'est un son un peu plus. On s'écoutera un extrait chacun. C'est quoi, je présente les autres, après on s'écoutera un extrait de chacun. Marguerite.
Ouais.
Marguerite Thiam. Toi, alors t'es un peu plus jeune que Lindo et que Zed.
J'ai écouté 2015, je me souviens bien.
Ah ouais, c'est vrai.
Ah bien sûr, bien sûr, c'est là, tout un truc.
Trop bien.
C'était fat. Okay.
Et donc ça fait que ta carrière est aussi un peu plus récente. T'as notamment deux EP à ton actif qui sont Comme les Grands en 2023 et Pierrot en 2025. Bon, on imagine que tu prépares la suite, j'imagine. Et alors toi, Il n'y a pas cette même ambivalence que, clairement, tu es une artiste pop. Tu le présentes comme tel, avec plein d'influences. Enfin, tu me dis si tu es d'accord avec ça. Hein.
Je te laisse aller au bout, t'inquiète.
Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir dire, en référence, tes inspirations, tu vas pouvoir aussi bien dire Alex Baupin que Benjamin Biolay ou SCH, tu vois. Il y a aussi des sons électroniques dans ta musique. Bon, il y a plein de mélanges, mais l'inspiration rap, tu l'assumes.
Bah oui, mais parce que j'écoute plein de musiques différentes et tout. Après... En fait, artiste pop, je sais pas. Dans le sens où, en même temps, oui, concrètement, c'est de la pop parce que c'est pas, je peux pas le mettre dans une case. C'est vraiment pas du rap, c'est pas du rock, c'est pas de l'électro, donc c'est plus pop. C'est un truc qui mélange plein de choses. Mais comme la pop aujourd'hui a une connotation péjorative,
pas ici.
Non, pas ici, mais je trouve plutôt. Dans l'intime ou dans les rencontres, quand tu dis je fais de la pop, on pense que tu fais de la musique qui passe à énergie douce, tu vois.
Dans l'imaginaire collectif.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est le truc un peu mainstream, entre guillemets, pop égale mainstream, forcément.
Sachant que moi j'écoute aussi de la pop, mais vraiment grave, tu vois. Et c'est juste ce que je connais de la pop aujourd'hui, que je connais pas d'ailleurs, mais genre, je pense à Sabrina Carpenter, des trucs comme ça. Je suis tellement éloignée de tous ces codes-là de pop, et même dans l'approche de la musique et tout. Donc je pense que c'est de la pop, mais je pense que c'est des sujets qui sont traités qui sont pas pop. Parce que la pop, elle est plus lisse dans les discours, je pense. Mais en même temps, j'aimerais bien un jour faire un tube pop. Hein.
Pour la SACEM, quoi.
Bon, ouais, tu vois, ça serait sympa.
Et c'est marrant parce qu'en plus, au-delà de l'inspiration rap, t'as même travaillé avec des gens du rap. T'as notamment au début bossé avec un beatmaker très réputé qui est Twinsmatic. Je crois aussi que t'as bossé sur. J'imagine que c'est pour le mastering avec Alex Goffer qui a fait beaucoup de trucs rap aussi.
Alex Goffer, c'est lui qui masterise tous les morceaux.
Peut-être qu'on parlera de ça aussi. Bon, voilà, en tout cas, une autre approche encore que celle de Lindo ou de Zed. Ça va être hyper intéressant. Et bon, ouais, Zed Youn, Pavarotti, Charlan.
Ouais.
Qui est en train de souffrir de la chaleur.
Le ventile, hein, tranquillos.
Bon, grand navigateur musical aussi.
Ouais, bah là, c'est Christophe Colomb total. J'ai découvert l'Inde.
Il y a un parallèle d'ailleurs avec Lindo, c'est que toi, tu es à peu près actif au même moment. Enfin, tes premières releases, c'est quoi, pareil, 2015, 2016, 2016, un truc comme ça.
Je sais que j'ai... En fait, moi, mon référentiel, en général, c'est quand j'ai signé mon premier contrat, je sais que c'était fin 2017.
Ok.
Mais j'arrive pas à savoir depuis combien de temps je faisais de la musique. En vrai...
Je parle bien pour ton micro.
Ouais, pardon, excuse-moi. Bah allez, ouais, peut-être 2015, disons ça.
Ouais, un truc comme ça.
Je sais pas trop, faudrait que je vérifie en vrai.
Bon, en tout cas, mixtape en 2019.
Non, mais c'est beaucoup plus vieux que ça, je n'importe quoi. Mon premier morceau, je devais avoir 2011, 2012.
Ouais. Que tu as réalisé publiquement ?
Publiquement, oui, après ça... Il faut qu'il y ait un public, mais ouais, sinon... Ouais.
En tout cas, le premier truc un peu marquant, c'est cette mixtape French Cash en 2019.
Ouais.
Et là, au niveau esthétique, t'es clairement dans les codes rap, c'est-à-dire qu'il y a des hi-hats trap, tu vois, 808, etc. Toi, par contre, dans ton interprétation, il y a le côté très mélo, très top line, très chanté, déjà.
Ouais, et puis le truc un peu froid, quand même. T'sais, le truc... à la Younglin et tout, le truc nordique et tout, machin.
Que t'as retrouvé, enfin que tu mets, il y a une référence dans ton nom d'ailleurs.
Bien sûr, totalement. Ouais. Absolument. Le Youn.
Et puis surtout une attitude aussi. Et elle qui, par contre, est un peu en dehors des codes rap, peut-être plus des codes rock, alors c'est un peu cliché tout ça, mais tu vois l'idée quoi.
J'étais pas à l'aise avec la représentation violente, en fait, tu vois, agressive et tout machin, quoi. J'étais pas non plus à l'aise avec l'inverse total, quoi. Donc, je voulais juste être moi, tranquillos, voilà, quoi, pas trop en faire. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé la scène suédoise et pays nordique, quoi, tu vois, où, en fait, il y a la bizarrerie... prendre dessus surtout, et en fait c'est une démarche bizarre de faire la musique déjà, donc je trouvais que ça collait mieux, quoi, tu vois. Et puis il y avait un rapport beaucoup plus graphique aussi. Quand je dis graphique, vraiment sur du graphisme et de l'esthétique pure, tu vois. Du coup, je trouvais que c'était un bon complément là où ça pêchait un peu sur le rap traditionnel, disons. Tu vois,
c'est à ce moment-là, à peu près autour de 2009, avec la mixtape, avant, après, que tu commences à faire tu fais des grosses premières parties, genre pour Aurel San, pour Columbine.
Ouais, bah j'avais de la chance, mais en même temps c'était horrible à faire. Mais bon.
C'est vrai.
Première partie, c'est ignoble.
Trop de stress ou c'est
gens le public pour toi, c'est ça.
Ouais. J'ai accompli le miracle, franchement, une fois sur Aurel San, je fais un zénith. J'avais fait la première partie. Il y avait 7500 personnes ou un truc comme ça, c'était à Lille, je crois. Il y a plus que ça, je sais plus. C'était vraiment fat, c'était pas rempli. J'ai eu zéro abonnement.
Ah putain.
Mais rien, il s'est rien passé, quoi. Mais quand même, il y a là 9000 personnes qui m'ont vu. Il s'est rien passé, tu vois. Et au-delà de ça, ils avaient créé un groupe Facebook. Et en plus, moi, je me disais, Aurel San, ça va quand même, tu vois. Il y avait une
petite vibe commune.
Ouais, quand même, tu vois. Un petit peu entre Queerdo, machin. On est très pâles tous les deux. Bon, bref, voilà. ils avaient créé un groupe Facebook sur la page de l'événement, tu vois. T'avais l'événement Facebook Zénith d'Aurel San. Et il y avait quand même un petit débat de c'était qui cette merde. Tu vois, ils se régalaient, les gens, tu vois. J'étais en mode dac. Et voilà, quoi. Mais bon, après, moi, ça m'a toujours régalé. Les trucs Facebook, en vrai, ça me régale. Quand les gens font des groupes, c'est extraordinaire, tu vois. Mais bon, voilà. C'est quand même miraculeux d'avoir fait ça.
C'est marrant parce qu'on a eu une expérience un peu commune de ces dates dans le précédent épisode.
Ouais.
Avec Julien Granel, je sais pas si vous avez vu Julien Granel.
Non, mais lui il disait le contraire. Les premières parties c'est ingrat, oui. Mais par contre, si tu donnes tout dans les 15 premières secondes et que tu arrives à les choper, après c'est bon.
Ouais.
Et en fait, mais par contre, ils viennent pas pour toi, donc il faut aller les chercher, quoi.
Après, le cas de Zénith, il est particulièrement glacial, en vrai. En vrai, parce que là, j'avoue que je dis ça en mode c'est horrible, les premières parties. Moi, si j'avais pas fait Columbine. Mais surtout, j'ai suivi Columbine pas mal de fois, ça m'a lancé, en vrai. Ouais. Mais parce que là, eux aussi me mettaient en avant et tout, donc en vrai, je suis quand même très reconnaissant pour ce qu'ils ont fait. Pour
finir, ça veut dire que Aurel San, il t'a pas mis en avant, c'est ça que tu dis.
Ben non, mais il faisait son Zénith, il avait autre chose à foutre. Et là, moi, je les suivais, tu vois, sur pas mal de dates, donc. Je sais pas, il y avait un truc plus familial, quoi, on va dire. Tu vois.
Sur Julien Granel, il avait fait les premières parties d'Angèle, y compris les désignés, etc. Et en fait, il raconte, effectivement, il a beaucoup appris pour choper une audience et tout, mais par contre, il dit, en termes de gens qui l'ont suivi derrière, alors que c'était pour Angèle et tout, il y a très peu de répercussions derrière, en fait.
Ça voudrait dire que le paiement en visibilité ne fonctionne pas.
Écoute,
c'est de la merde, ok.
Et donc, je disais que t'étais à ce moment-là vraiment avec la mixtape et tout, dans les codes du rap à fond. Et puis après, il y a un premier album, Bossaigne en 2020, un deuxième en 2023 qui s'appelle Encore. Et là, clairement, il y a un petit switch qui se fait tranquillement, tu vois, avec des influences rock que tu revendiquais déjà, mais qui dans le son vraiment apparaissent, en fait.
Là, sur ce que je sors maintenant, celui-là ?
Non, je pense à Encore.
Oui, sur Encore, ouais. Large, oui.
Il est hyper bien, cet album, d'ailleurs.
Il est bien, mais c'est un album de rock indé, en vrai.
Ouais, c'est vrai.
Mais avec le recul, je le prends de manière plus conceptuelle, tu vois, et surtout je me suis fait un énorme kiff. Et pour moi, c'est un très bon album de rock. Indé,
je l'adore. Pour moi, c'est
un super album.
Ouais, mais bon,
j'écoute tout le temps.
Il aurait une vie avec une autre discographie précédente, je pense, et surtout peut-être pas en français aussi. Tu vois, j'en sais rien, mais bon, bref. Voilà.
Vous savez quoi? Avant de rentrer dans nos discussions, on va écouter un peu un son de chacun.
Moi non, c'est pitié.
Non mais genre, on prend dans les dernières sorties. Bon, Lindo, toi c'est facile parce qu'il y a tout un album. Ouais. Est-ce qu'il y a un morceau spécifiquement sur l'album que tu te dis c'est une belle introduction à l'univers, cet album, tu vois? Après, je peux choisir, mais...
Ouais, Laisse-moi t'aider, je pense. Ouais. C'est une bonne approche.
Laisse-moi t'aider. Allez, écoute, on s'écoute ça.
Merci.
Et si l'on chez nous pour aller marcher. À cette heure-là, les rues sont désertes, on aurait la nuit entière pour aller s'évader. Je te prendrai par le bras au milieu d'une allée. Oh, on aurait des choses à déballer.
Bon, on est loin des prod rap, du phrasé rap à une époque. Est-ce que tu te serais pas un peu pris McGee, toi ?
Et Phil Collins.
Et Phil Collins. Prince aussi, peut-être, non ?
Ouais, beaucoup. En fait, après, enfin, en 2021, quand je sors mon premier album, disons, celui qui respecte les codes d'un album dans la forme, je connaissais rien. Je connaissais Michael Jackson de nom, je connaissais Phil Collins, je connaissais The Police, Prince, etc. Parce que je les avais écoutés soit à la télé, soit dans les magasins, soit dans... Mais j'avais jamais vraiment écouté ces artistes. Et là, il y a 2-3 ans, avec la pause Covid, j'ai arrêté de faire du son, j'ai arrêté ma tournée aussi, et je me suis dit, bah, c'est le moment d'écouter ce que j'ai jamais écouté, ou alors ce que j'ai écouté, mais avec mes oreilles de lycéen ou de collégien qui n'était pas producteur à l'époque. Et en fait, je me suis pris une claque et je me suis dit, mais pourquoi je fais du rap alors que j'ai les musiques que j'aime, c'est ça aujourd'hui. Avant, j'écoutais du rap, donc je voulais faire du rap. Il y a 3 ans, je me suis mis à écouter de la pop, de la grande pop. Enfin, je sais pas s'il y a une petite pop, mais ces chanteurs-là. Et je me suis dit, je veux faire cette musique, je veux descendre de chez moi, je veux aller dans ma voiture et écouter un son fait par moi et qui ressemble à ça.
C'est marrant parce que ouais. Si je mets un, je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais je pense à Inexprimable par exemple, ouais. En soi. Pour juste, tu vois, on se met un extrait tout rapide pour voir, tu vois, en termes de code, ouais. La différence. Ton évolution artistique, quoi.
Ça, c'était avant, du coup.
Ouais, ça, c'était bien avant.
J'ai voulu la belle vie, on m'a dit, allez, pousse-toi, sois débrouillard.
On est en 2017.
Je dois garder pour moi tellement d'ennemis qui connaissent bien mes pouvoirs. Une pièce sans bouquin et comme un corps sans âme, une nuit encore sans elle. J'ai pas mal d'aveux que je dois garder pour moi. Si je n'étais pas fou, je deviendrais dingue. Qui peut me réserver mon destin? Un festin, profiter d'un festin. La nuit, on ne sait plus ce que l'on fait, ni ce que l'on fasse, toi. La couleur de mes mots est aussi noire qu'un café. Si tu veux que je veille de toi, sois imparfaite. Assume tes défauts et faisant toute ta rareté. Je délirai ma belle et ce en a.
Bon, c'est juste pour avoir une idée, tu vois, effectivement, ouais. Du grand écart que tu as pu pratiquer, quoi.
Complètement. Bah là, 2017, c'est l'époque où j'installe Ableton, mmh. Et où je fais mes premières prods. Avant, je téléchargeais des tight beats, mais j'ai toujours une petite exigence où j'aimais pas telle chose ou telle chose dans les... Donc, il y a un pote à moi qui s'appelle Katusha, qui est un producteur aujourd'hui.
Qui est proche de la Click Roche Music, si je dis pas de bêtises.
Exactement, ouais. Exactement. Et qui aussi produit pour des rappeurs, encore actuellement. Et il m'a dit, télécharge Ableton. J'ai supprimé au bout de 2 jours et j'ai réinstallé 2 semaines après. Et après, j'ai pas lâché. Donc, ouais, c'est cette époque-là. Mais aussi, tu vois, je me dis... Là, si on m'entend parler, si on m'entendait parler à l'époque, on n'aurait pas forcément pu me reconnaître en entendant le son. Il y a une distance aussi entre la personne que j'étais dans la vraie vie et la personne que j'étais dans mes sons. Et aujourd'hui, j'ai essayé de réduire cet écart. Si tu m'écoutes parler là, dans ce podcast, et si tu écoutes Laisse-moi t'aider, je pense que tu me reconnais instantanément. Parce que j'ai essayé de me rapprocher de qui j'étais, alors qu'avant c'était vraiment un exercice tellement abstrait de rapper sur une prod, parce que je connaissais pas ça, j'avais jamais été à un concert, j'avais écouté que quelques musiques.
Ouais. Ça c'est fou, C'est vraiment un truc un peu de, je trouve quand même, d'une forme de modernité.
Complètement.
Avec des aspects positifs et négatifs, mais d'un artiste qui commence déjà à se faire un nom et qui en fait n'a quasiment pas d'expérience lui-même d'aller voir des concerts.
Ouais, ouais.
C'est fou quand même.
Ouais, complètement. Ouais, ouais, bah ça c'est permis par aussi l'acquisition facile de matériel. Enfin, facile. J'ai travaillé pendant 6 mois, je me suis acheté mon premier MacBook, un micro à 120€, un micro USB-C. J'avais même pas de carte son.
Sur quel site?
J'allais la placer, bravo, bravo.
C'est pas fait
de man. Non, en vrai, j'en souviens plus, mais il y a de fortes chances. Et ouais, cette époque-là a permis ça, d'avoir aucune expérience, mais de tenter un truc presque pour blaguer.
Mais c'est marrant parce que quand on reçoit des artistes, souvent il y a le, tu sais, le besoin de légitimité, ou en tout cas le syndrome de l'imposteur. Toi, tu te lances là-dedans, tu.
Mais par folie. Par folie et par inconscience. Parce que moi, si j'écoute mes premiers sons, peut-être pas inexprimables, mais 3 ans auparavant, aujourd'hui, je me donne ce conseil, je me dis, mais ne continue pas. Tu n'es pas fait pour ça. Les premiers sons que j'écoute, c'est juste par inconscience, et parce que j'ai des lacunes terribles et des mauvaises oreilles, que je continue. Vraiment, mes premiers sons, ils sont... Et je le dis pas en fausse modestie, vraiment, on pourrait les... Si je les avais ramenés, on aurait pu les écouter, mais c'est
tu les as laissés quand même en ligne quelque part
ou... On en répertorait sur YouTube, ouais. Ouais. Je pourrais vous les envoyer si
vous voulez. Si on va se faire du mal.
Marguerite, t'as ce rapport à tes tout premiers trucs c'est dur.
C'était hier déjà.
Bah,
c'était hier.
Les trucs, ils sont sortis en fait. Hein. J'ai pas. Bah, en fait, j'ai un peu la même histoire. Enfin, dans le sens où moi, de base, je voulais vraiment faire du cinéma, pas du tout de la musique. J'aimais bien la musique, quoi, comme n'importe quelle personne. J'étais une auditrice, j'écoutais de la musique. Et mon frère, lui, faisait de la musique. C'était mon grand frère. J'étais en mode, putain, le bâtard et tout, il fait des sons, c'est trop stylé. Je l'ai grave admiré. Et comme il a appris tout seul, autodidacte, je trouvais ça impressionnant que tout d'un coup, il arrive avec un morceau sans avoir de connaissances. Donc j'ai essayé de gratter un peu, lui dire, vas-y, monte-moi et tout. Et on a commencé à faire un morceau de base vraiment pour le fun. C'est terrible de dire ça. Je pense à tous ces gens qui vraiment se battent. Bon, en tout cas, non mais après, c'est une autre forme de bataille. C'est juste que voilà, donc au début c'était pour rire, mais parce que moi j'étais vraiment attachée au texte. Donc il y avait quand même ce truc-là, c'était pas... Je faisais déjà des trucs, j'avais monté un média avec un pote où j'écrivais des textes que je récitais et lui il les mettait en images. Donc là j'avais ces textes-là et je me suis dit qu'est-ce que ça peut devenir si tout d'un coup il y a une mélodie par-dessus. Mais l'idée de chanter déjà me tétanisait, enfin je... Voilà, et du coup, bah, on a fait ce morceau, et suite à ce morceau-là, j'ai rencontré Toon Somatic, en fait.
Ah, c'est
très
hyper vite.
C'est vraiment allé très vite. Et là, il y a vraiment eu la question de légitimité, parce qu'au début, t'es avec ton frère, c'est marrant. Puis après, t'arrives dans un studio. Moi, je ne savais pas du tout qui était Toon Somatic, enfin, je comprenais pas. C'est en parlant un peu autour de moi que j'ai compris un
on
peu.
On rappelle, il a bossé, je sais pas, pour Damso, pour plein de gros noms, tu vois.
Ouais, voilà, tous les, l'équipe, tous le genre de, les gens du rap, Booba, SCH, tout ça, et moi, SCH, c'est. J'aime beaucoup. Et du coup, j'arrive tout d'un coup dans un studio immense avec des micros, des synthés, des trucs et tout. Et il me dit, vas-y, chante, quoi. Et là, c'est quelque chose, quoi. Et puis en plus, il te raconte que quand tu es en studio avec, je sais pas, Christina and the Queens, sa prestance en studio, son charisme, etc. Donc au début, c'était difficile. Et aujourd'hui, je travaille plus avec mon frère, donc je me suis retrouvée seule face à. Justement, ma question de légitimité, quoi. Qu'est-ce que je vais faire dans un studio sans mon frère? Qu'est-ce qui va se passer?
Parce qu'avec Toon Somatic, il y avait ton frère, quand même.
Ouais, il y avait mon frère, mais c'est, avec mon frère, c'était surtout sur la recherche de mélodie, comment trouver ça. Et moi, en fait, je l'écoutais tellement, on travaillait vraiment à deux, mais j'avais ce pilier, quoi, tu vois. Et donc, c'était simple. Et là, du coup, je prépare un album, et il n'y a plus mon frère. Et c'est un album, c'est-à-dire que c'est vraiment le projet le plus important. Et j'étais en studio, j'ai fait des crises d'angoisse, quoi. Vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Bon,
après, il faut dire que tu t'es bien entouré. On va écouter Saint-Laurent, qui est le single que t'as sorti récemment. Et il y a notamment notre ami Nit dessus.
Ah, bah,
je sais pas s'il a beaucoup participé.
Il a tout fait.
Il a tout fait, bon bah.
Ah, il a fait toute la brode, quoi.
Bon bah, Corentin, il est fort, de toute façon, quoi.
Ça, c'est un morceau pop, tu vois. Ouais. Ça, c'est un morceau très pop. C'est mon morceau le plus pop, c'est le plus léger.
Mais attends, t'es ok pour qu'on l'entende, du coup?
Parce oui, que... il est sorti, ce single.
D'accord. Non, mais ça te va ou.
Mais attendez, là, on.
Oh. On
non, non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que Saint-Laurent, c'est un morceau que j'adore, que je trouve léger.
N'écoutez pas ma musique, s'il vous plaît.
Non, mais c'est juste que c'est peut-être le morceau. Qui là existe, mais qui peut-être me représente le moins, je dirais.
Ah, alors voilà, donc c'est pour ça. Autant qu'on parte sur un morceau qui te représente.
Ça va pas plaire à mon équipe qui est en bas, putain, je vais prendre ça.
Tu sais quoi, on commence par écouter Saint-Laurent, et après on pourra écouter d'autres trucs.
Vas-y.
On fait comme ça. Il faut assumer, c'est le dernier single, on l'assume.
C'est mon combat tous les jours.
Et en plus, il y a Nid dessus.
Oh, ils ont dit à 3 semaines, je ne peux plus. Je rigole, non mais pas, ça, c'est classe.
On l'écoute quand même.
Allez, j'ai bien compris que tu voulais l'écouter.
ça me tue. C'était inévitable. Je voyais le chemin et tout. J'étais en mode, non, c'est inévitable.
Je suis
allé. Ah, tant pis, hein, tant mieux. Hein.
Il en faut, de toute façon.
Ah, il en faut.
Je m'emmerde sur la petite des autres. Je me gagne du fric comme tous ces idiots. Quand c'est fini mal à tous les niveaux. Je préfère de choix que tout le monde me voit. Les yeux arrivent sur moi. Les moments de panique, le trash et le cash. J'aime la polémique, le crade et le clash. Putain, c'est si bon d'être insaisissable. Ne pas faire de choix que tout le monde me voit.
C'est efficace quand même.
C'est efficace.
C'est efficace. Bravo.
Tu sais quoi ?
Bravo. C'est pas toi, mais c'est efficace. Franchement.
On a fait un exercice avec Lindo qui était intéressant, c'est d'écouter ce qui est fait aujourd'hui par rapport à avant. Ce qu'on peut faire, c'est. Est-ce que tu revendiques cette inspiration rap ? Tu dis que t'adores SCH, etc. Est-ce que dans ta discographie actuelle, alors t'as pas encore sorti énormément de trucs, mais il y a quand même plusieurs morceaux, est-ce qu'il y a un morceau où on pourrait ressentir cette inspiration ? Tu as l'impression qu'elle est plus présente que dans d'autres
morceaux ? Ouais, mon premier morceau.
On peut s'écouter ça si ça te va.
Mais déjà, juste, moi j'aimerais bien faire un commentaire. En vrai, je trouve que t'as quand même de la chance parce qu'il n'y a rien de naze en vrai quand même dans ce que tu fais. Et je pense pas que tu vas t'en éloigner autant que ce que tu imagines. T'as commencé ta carrière avec toi en fait, déjà quand même. Tu vois.
Oui, mais en fait, ce qui est difficile.
Ça, c'est un cadeau, hein, c'est bien quand même.
Moi, il y a cette particularité de faire une musique, puis après voir d'autres musiques qui sortent et te dire putain, pourquoi j'arrive pas à m'ouvrir un peu plus, à faire des choses un peu plus ouvertes, un peu moins deep, un peu moins raconter des. Et au final, maintenant que je l'ai fait, sur Saint-Laurent, je me suis dit, vas-y, je me fais un quiche, je fais un morceau un peu plus tubesque, un peu plus léger. Et en fait, moi, si je fais de la musique, sachant que je n'ai pas tout ce background de musicienne, etc., c'est vraiment pour au moins raconter un truc, quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec la façon de défendre le morceau. C'est pas tant que j'aime pas le morceau, je le trouve cool. C'est juste que.
C'est
étant donné que c'est pas moi qui fais de la prod, et puis, comme j'ai cette question de légitimité, je me dis, si en plus je fais de la musique et qu'en plus je raconte pas un truc, il y a un moment donné, et là j'ai un
Après,
peu.
Après, c'est bien que tu te poses la question. Ça t'amène.
Mais je l'ai fait, je me rends compte que je pense que tu peux faire des trucs un peu plus tubesques, mais sans forcément abrutir les textes. Enfin, abrutir, c'est pas vraiment ça, mais...
Simplifier,
voilà, ouais. C'est ça.
Il y a peut-être aussi un truc du fait de ta carrière encore relativement jeune. T'as l'impression que tu dois vraiment te présenter au monde, que chaque morceau est important, entre guillemets.
Ouais,
alors qu'en fait, dans une discographie, on a le droit de s'amuser, de faire des trucs plus légers à des moments, machin et tout. Base,
oui, mais en fait, je pense que quand même... je pense que quand t'es à un certain niveau, c'est plus simple de faire un truc marrant, un truc léger, et qu'on va mieux le comprendre. Mais là, comme en vrai, je suis encore en développement, etc., je me dis... Il y a des prises de parole parfois qui me semblent pas forcément cohérentes avec ce que je suis, quoi. Bon, après
oui, t'as peur d'être réduite à ça, en fait.
Oui, voilà, en fait, c'est ça, c'est que là, par exemple, on fait une écoute, on est en intime. Si on demande, on est en club, je trouve ça cool de passer Saint-Laurent, je trouve ça fun. Mais là, après, faut en parler, quoi. Et là, en parler, j'ai fait un son fun, voilà. Ego trip.
Tu vois, en fait, ça, faut le prendre comme ça, en vrai.
Et est-ce que, par exemple, le premier morceau dont tu parlais, c'est quoi ? C'est quand la nuit tombe ?
Non, c'est comme les grands, le premier morceau que j'ai sorti.
Comme les grands.
C'est un truc où je rappe un peu, entre guillemets.
Ok.
Et pareil, ça.
Ça te convient pas non plus ?
Si, ça me convient, mais j'adore.
Non, mais dis-nous, Marguerite, dis-nous, ce sera plus simple.
Non, mais comme les grands, j'adore, c'est mon premier morceau, écoutons-le. Ouais. Il y a le côté la jeunesse, quoi. Ouais, même ma voix, je pense que je la pose bizarrement.
Et ça date de quand ?
Ça date de 2022. Je l'ai rec en 2022, il sort en 2023.
Tu veux qu'on s'écoute un autre morceau ?
Non, vas-y, comme les grands, ouais. Let's go. Non, demain j'arrête.
Bon, demain j'arrête, vas-y, on peut écouter demain.
C'est pas du tout du rap, quoi.
Mais c'est pas grave.
Allez, on s'écoute demain j'arrête.
Pourquoi toutes les bonnes choses ont une fin ? Pourquoi je suis la seule à vouloir sortir ? C'est quand même fou. Tout ce qui me fait du bien me donne forcément envie de vomir. Rien ne peut me contrarier. Vu tout ce que je me suis envoyé. Les nuages de fumée me rassurent, c'est comme si j'étais toujours accompagnée. Déjà la dernière fois, je disais que ce serait la dernière fois. Je disais que ce serait la dernière fois. Déjà la dernière fois, je disais que ce serait la dernière fois. Je disais que ce serait la dernière fois. Déjà la dernière fois, je disais que ce serait la dernière fois. Je disais que ce serait la dernière fois. Mais est-ce qu'elle m'aimera si je reste derrière moi? Tout ce qui m'excite le plus. Je lui dis demain j'arrête. Au fond je peux rien lui promettre. J'ai des réflexes d'adolescente. Tout est plus beau dans la fête. Dans la fête, si tu veux j'arrête. Jusqu'à la prochaine cigarette.
Bah c'est bien.
Est-ce que c'est bon ça?
C'est solide.
Charlant, vous êtes d'une pavarde.
Ouais, dis-moi.
On peut faire un peu le même exercice avec toi. Tu sais, de l'évolution du son. C'est intéressant. Genre, ton dernier morceau, Si Dieu fume, ça te va d'écouter ça ?
Ouais,
quel dernier single en date?
C'est pas le dernier single en date.
Ah, il y en a un nouveau.
Ah, j'y suis allé, fort.
Ah, y en a ouais, mais c'est un peu, parce qu'il y a un album qui arrive, on le sait. C'est un peu un des titres quand même
qui est mis
en avant.
Ouais. Bah, j'ai fait un gros clip, machin. Grosse actrice. Grosse prod.
Grosse prod.
Tu préférerais qu'on écoute un autre morceau parmi les derniers?
Si je fume, bon.
Oui, mais on met si je fume, allez, c'est parti.
Ouais.
Il est trop bien, tout ça.
Ça te convient pour illustrer... Ouais, tu veux parler de ce morceau?
Non.
est-ce que ça te convient pour illustrer l'évolution sonore, tu vois, d'écouter par exemple, je sais pas, Velours, qui est un de tes titres emblématiques de cette époque, ou peut-être un autre?
Ok. Oui, si tu veux, Velours. Mais ça, ouais,
vas-y. Non, vas-y.
Vas-y.
Ouais.
Ouais, carrément.
Non, mais c'est pas possible.
Ils sont compliqués, ces artistes. Non, gars. C'était sur la mixtape, justement, French Cash.
Ouais, exact.
Et je crois que c'est un morceau qui est apprécié par ton public, en tout cas, ou qui
l'a été beaucoup à l'époque, ouais. Bon, le Max a été Papillon sur ce projet, quand même.
Ouais.
Peut-être Papillon, non?
C'est vrai? Allez, vas-y, on s'écoute Papillon, alors.
Elle est bien, cette musique. Je l'aime.
Je connais pas.
C'est vrai? Ça a 30 millions, 20 millions de streams? Ouais, un truc comme ça.
Jack Hennessy, c'est fini, y'a plus d'usine. On fête la New Genesis, y'a différentes énergies. On va tourner le nouveau film, comprendre même la poésie. Vous nous avez pas changé, abandonné mes 6 livres. Ouais, sous y'a les roues, ouais. Du coup ça roule, ouais. Ça roule des méga tagas, des trucs de zboul, ouais. Plus tard je veux être astronaute, c'est dit dans le Touran, ouais. Pas de soucis pour la photo, même assise du sbar. J'ai bien dormi avec ses jambes sur mon corps bousillé. Un genre comme un mortel devant 10 000, j'fais un sourire, yes, yes. J'ai bien dormi avec ses jambes sur mon corps.
Ce morceau qui est quand même vachement dans les codes rap, il m'amène à une question, et notamment pour le moment
c'est
pour...
C'est pas vachement dans les codes rap, c'est du rap,
c'est du rap, on est d'accord.
Ouais.
Je tiens quand même à dire que moi qui connaissais pas vraiment ce morceau et qui connais vraiment surtout ces dernières discographies, je vois vraiment le lien entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a aujourd'hui. Dans le rapport aux mélodies, même.
Mais sur ce morceau, ouais. Après, il y a des trucs plus obscurs, hein, quand même. Largement.
Je vais me faire une petite ambiance ce soir.
Est-ce que Lindo, Charland, est-ce que vous considérez comme des rappeurs? Est-ce que ce soit publiquement dans vos têtes, est-ce qu'il y a ce truc de dire je suis un rappeur, ou c'est une identité plus complexe en fait et c'est difficile à assumer le terme rappeur?
Qui c'est qui va
là-dessus?
J'allais. Moi non, je dirais pas ça en vrai.
T'es pas un rappeur?
Non, je pense pas. Je pense que j'ai fait du rap.
En fait, je vais pouvoir... Désolé, hein, Marguerite Thiam. Mais du coup, est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de textes, c'est du rap? Et voilà.
Ah, il a pris ma
punch. Ouais. Non, mais c'est en vrai, c'est une question, quoi. C'est quoi du rap? Là, à la rigueur, ouais, mais je pense que, comme tu dis, en vrai, c'est des codes. C'est des codes. Mais un fort volume d'écriture n'est pas forcément du rap, tu vois. Il faut juste que ça rentre. Il y a ce truc de métrique et tout machin. Mais c'est pour ça que c'est aussi une performance et tout. Et si on devait vraiment le définir, je pense que c'est une culture avec des codes aussi, en vrai.
Ouais, mais en vrai, enfin, là, sur le style pur, la façon de placer.
Là, c'est du rap.
Ouais. Et tout,
ouais, ouais, c'est du rap total. Ouais, ouais. Là,
ça veut dire qu'on peut rapper sans être un rappeur?
Ouais, je pense que c'est possible.
Ah oui.
Je pense que c'est grave possible. Ouais,
je pense que oui aussi. Là.
En Angleterre, elle est bizarre la notion de rap, tu vois, en vrai. Ça a été là depuis très longtemps, en vrai. Dans les années 70-80, il y avait déjà plein de... En fait, tu pouvais faire du rap, tu vois. Et même des artistes aujourd'hui qui peuvent faire du rap, tu vois. Ils se lancent, sur un morceau, tu vois.
Sans être des rappeurs.
Sans être des rappeurs, tu vois. C'est pas. The Street, c'est. Je sais pas trop ce que c'est, en vrai, tu vois. C'est que c'est difficile à dire. L'exercice en dehors, je pense qu'en dehors des codes, c'est pas plus forcément du rap, quoi.
Parce que là, mais ça, c'est la France qui est un peu comme ça. C'est le public français qui est un peu comme ça. Où le rap a été préempté. Tu vois, moi je suis vraiment un défenseur de t'as envie de rapper sur un mug Thomann, vas-y, fais ton 16, tu vois.
Ouais, ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire non, parce que il faut venir d'un certain milieu, faut avoir les codes, faut, tu vois.
Tu penses que c'est spécifique à la France, ça?
C'est 100% ouais, la France. Ouais. C'est 100% la France. Et ce qui a libéré ce truc là en vrai, bah c'est les mecs de l'entourage, c'est les Nekfeu, c'est des gars qui avaient en fait du skill au micro. Parce qu'il y avait toujours ce procès en plus de t'as pas le bon background socio-économique, tu vois. On va parler de couleur de peau aussi. Et du coup, t'as intérêt à être bon, tu vois. Donc les rappeurs blancs, il fallait qu'ils sachent doser vraiment. On a eu Eminem comme ça aux États-Unis, tu vois. Mais en vrai, les Américains, ils ont beaucoup moins de complexes.
C'est du show de toute façon.
C'est de l'entertainment, on s'en fout, en fait, tout le monde peut y aller. Et en France, t'as quand même ce truc de non, t'as genre... C'est limite de l'appropriation culturelle, tu vois.
Ouais.
Genre, tu utilises la musique rap.
Ou c'est crispé,
alors que, voilà. Et en fait, c'est pour moi un vrai point de blocage qui est un peu...
On reparlera de ce truc juste après, de rapport forme-culture, parce que t'as raison, c'est un truc essentiel. Mais toi, Lindo, on t'a pas entendu. Est-ce que tu te considères comme un rappeur? Est-ce que ce terme, tu peux l'assumer?
En fait, moi, j'aurais un point... Je dirais que à partir du moment où tu rappes, t'es un rappeur.
Okay.
Mais ça peut durer 3 minutes. Tu peux être un rappeur pendant 3 minutes.
Okay.
Mais... Aujourd'hui, moi, je me considère plus comme ça. Je considère, en fait, quand on me demande dans un rendez-vous médical ou autre, quand on me demande qu'est-ce que je fais, je dis musicien. Ça peut m'arriver de faire du rap, ça peut m'arriver de chanter, ça peut m'arriver de juste de parler sur une prod. Mais moi, je dirais ce qui est le plus... Aujourd'hui, mon approche, elle est complètement musicale. Même dans mes textes, je ne vais plus chercher le sens. Le sens, il vient à moi. J'écris plus. Je chante, et puis quand ça sonne juste, je note, et je recopie ce que j'ai chanté presque sans faire exprès.
Après, sur le truc du terme du... La question de c'est quoi être un rappeur? En vrai, on le sait, on a des images en tête de ce que c'est qu'être un rappeur, c'est ce que je veux dire. On a des images en tête de ce que c'est qu'être un jazzman ou un rocker, tu vois ce que je veux dire. Donc en vrai, tu sais où tu te places après... Après, tu peux dire, ouais, qu'on se sent, comme je dis, c'est un sujet général, hein, qu'on se sent auteur, compositeur aussi, tu vois, il y a plein de trucs, mais tu sais quand t'es un rappeur, en vrai.
Ouais. Est-ce que, si on s'arrête que sur la forme, pour commencer, après on parlera de la culture, sur la forme, on peut prendre, il y a le texte, il y a le flow, il y a les prods, il y a une forme d'attitude qu'on peut lier au flow d'ailleurs, c'est un peu les grands éléments du rap, si je puis dire. Qu'est-ce que vous avez l'impression, vous, chacun, on peut commencer avec Marguerite, vous avez l'impression de puiser là-dedans, vraiment sur la forme rap, potentiellement dans votre musique?
Bah moi, c'est les textes, je pense. Mais pas tant les textes de rap, comme on peut imaginer des textes de rap, mais plutôt que je trouve que le rap, ce qui, moi, m'a touché, par exemple, chez des mecs comme SCH, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est leur rapport à l'écriture, en fait. C'est que j'ai l'impression que c'est à ça que j'associe le rap, moi, en fait, tout simplement. Et je pense que moi, si on m'a dit que je faisais du rap, c'est parce que parfois j'ai eu des flows plus parlés que chantés. C'est une façon de poser, c'est une façon d'appréhender le texte aussi. Du coup, comme je disais tout à l'heure, de peut-être moins le lycée, peut-être être plus cru, peut-être être plus direct. Voilà. Et après, c'est peut-être une esthétique autour, une façon, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que moi, je peux pas prétendre être rappeuse quand je vois des artistes comme féminines, comme Lace ou des filles comme ça, qui sont vraiment des vraies. Ah ouais. Putain de kickeuse, tu vois. Et peut-être que c'est peut-être la différence, il y a le rap et il y a le kick.
Est-ce que quand on est rappeur, on fait uniquement du rap aussi?
Voilà, aussi.
C'est bah ça. Non, justement, c'est en train de bouger, ça.
Ouais, mais est-ce que du coup. Enfin, je sais pas, tu vois.
Mais pareil, ça va dans les deux sens. Il y a plein de rappeurs considérés comme rappeurs qui sont pas des kickers, qui font pas des cyphers, qui font pas de freestyle.
Mais est-ce que c'est très resserré stylistiquement, tu vois, et c'est quand même.
En tout cas,
parce qu'elle fait le charme du truc, tu vois. Moi, quand j'écoute du rap, j'ai pas envie que ça soit trop. Je veux que j'aille écouter du rap, en fait.
Ouais. Et je pense que aussi, en étant une meuf, c'est quand même différent déjà d'être considérée comme une rappeuse, quoi. Ouais. Déjà, je pense que pour un mec qui vient pas d'un certain milieu, etc., déjà c'est compliqué. Il a une pression. Mais alors, une meuf, pour que. Enfin, moi, demain, je suis à une table avec des rappeurs, jamais ils pensent que je suis rappeur. Ça, c'est un truc médiatique qui a été utilisé parce que j'ai fait 2-3 flows parler, mais en réalité, j'adorais en rêve. Moi, là, mon rêve, c'est de faire sortir un son à la rêve. Bon, 93 mesures de Dino, c'est un truc tout droit où je fais que raconter des trucs. Et ça, c'est mon rêve sur Terre. Mais je pense que je peux me faire attaquer pour ça.
Mais c'est dur, quoi. Aussi, c'est
déjà,
dur.
Bah, je peux me faire attaquer parce que déjà. Déjà, j'ai déjà eu des expériences avec des gens en festival de trucs où, justement, mon premier EP est plus rap, où je kick un peu. Ouais. C'est en mode cousine, t'es pas rappeuse.
Après, si tu sais faire et que t'as envie de le faire.
Oui, mais en plus, je pense que je l'ai bien fait parce que j'ai pas prétendu être rappeuse. C'était juste une façon de poser. C'est une façon de ne pas chanter d'ailleurs, vu que j'avais peur de chanter.
C'est quoi le titre?
C'est comme les grands.
Oui, c'est vrai.
Tu veux comment? Attends, t'as quoi? Regarde, vas-y. On se met un extrait rapidos.
C'est bon.
Qui partent, mamie est morte en un courant d'air. Amant à terre, quand les darons ne se fatiguent pas, ils se font la guerre, je sais plus où me mettre. Partir ou renaître, percé par la haine, on finit par s'y.
Juste pour illustrer, effectivement, là on sent déjà un peu plus, ouais. Tu vois, l'inspirap et tout. Mm-hmm. Mais tu vois, quand. Parce qu'il y a aussi cette interaction avec le fait d'être artiste pop, et le principe quand même de la pop, c'est aussi un peu de prendre un peu partout. Ouais.
Ce que je veux dire, c'est que t'as quand même un suivi mélodique. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais c'est pour ça que moi, je n'ai pas.
Bon, pour rentrer dans.
Ouais. Regarde, tu vois, quand Dua Lipa, elle fait des morceaux funky.
Elle va pas.
Bon, en tout cas, comme tous les gros artistes, souvent, il y a des sons un peu. Je pense aussi à. Comment Taylor s'appelle-t-il Swift. Ouais, non, elle fait moins les trucs dans cet esprit-là quand même.
Country,
bref, tu vois, je pense pas qu'elle va se dire, ouais, je suis une meuf du funk, tu vois.
Ouais,
je suis une meuf de la soul.
Oui,
c'est une meuf pop. Juste, par contre, elle est capable dans des morceaux.
Comment tu définis la pop? Parce que, en fait, moi, c'est ça que j'ai l'impression qu'il y a le débat avec tous les artistes, c'est de se dire quel est le genre musical. Pourquoi devoir donner un genre musical alors qu'en réalité. Parce que la pop, pour moi, la pop, c'est Sabrina Carpenter. Ça, c'est la pop. Et en même temps, c'est aussi Michael Jackson. Donc, c'est là où il y a le questionnement. Mais Michael Jackson, est-ce que c'est pas du rock, en vrai?
En fait, il y a pas.
C'est du funk et de la soul.
Oui, mais ça dépend
de
la période.
Mais c'est vraiment la pop, c'est ça. En fait, la pop, c'est justement des trucs qui vont emprunter à droite, à gauche,
exactement,
et qui, en fait, parlent à tout le monde.
Oui, mais alors, du coup, là, je pense que la définition, elle n'a pas été suffisamment comprise par le monde, parce que j'ai l'impression que la pop aujourd'hui, bah, par exemple, une fille va plus facilement être en mode pop. Alors qu'en vérité, elle fait peut-être pas de la pop. On a du mal à définir véritablement ce que c'est.
Il peut y avoir un rapport genre et à tout ça, ça c'est vrai.
Mais il y a aussi un rapport avec à le regard extérieur, la façon dont c'est marketé. Il y a
exactement.
La pop, c'est juste de la musique populaire. Donc par exemple, si tu vas au Brésil dans les années 70-80, la MPB, la musique populaire brésilienne, bah c'est la bossa, tu vois.
Oui, mais je te prends exemple d'une meuf genre Mickey, par exemple.
Ouais.
Là, c'est devenu populaire, mais initialement, on n'est pas sur de la musique qui reprend des codes de musique populaire et pourtant elle est considérée comme pop, alors qu'elle a un placement. Enfin, je sais pas.
Pop urbaine, peut-être.
Je prends quelques.
On a reçu d'ailleurs, je vous encourage à aller voir l'épisode ou même carrément à lire directement le bouquin d'Agnès Guéraud, qui est une philosophe qui.
Dialectique de la pop.
Son bouquin s'appelle Dialectique de la pop. Justement, elle s'interroge sur la notion de pop. Et elle dit que c'est pas une esthétique musicale en tant que telle. Il n'y a pas de son pop. Alors, je vais trahir forcément un peu sa pensée, parce qu'en plus, elle est brillante.
C'est mécanique.
Mais c'est surtout, il y a un rapport à une forme
d'efficacité aussi.
D'industrialisation et du fait de reproductibilité. En fait, la pop naît de la musique moderne, de la musique enregistrée et de l'accessibilité. On peut diffuser à tout le monde. C'est ça qui fait vraiment phénomène pop. C'est le fait qu'on peut commencer à toucher énormément de gens. Et donc, quand on a ce potentiel de toucher beaucoup de gens, on fait de la musique pas exactement de la même manière. Et ensuite, il y a plein de façons.
Tu la formates.
Et alors justement, non, c'est structurel,
c'est une recherche structurelle.
Et c'est pas ce qu'elle dit, parce que justement, elle va être la première à dire qu'il existe de la pop expérimentale. Et on le sait tous, ça, qu'il existe de la pop expérimentale en réalité.
Si, c'est un genre musical. Mais en fait, il y a un même mot pour dire deux choses, je pense, en fait.
Vas-y.
Il faudrait qu'il y ait un autre mot pour définir le genre. Enfin, je pense, la pop, c'est une mécanique. C'est comment tu maximises en prenant des codes, effectivement, populaires. Et comment tu rabats un peu tout. tout pour que ça soit le plus efficace possible, le plus diffusable possible, quoi. Mais alors, et selon les cultures, après, les pays, en vrai, ça peut devenir un espèce de style à la fin, parce que ça se théorise, en vrai, ça se théorise. Quels sont les enchaînements d'accords qui font que combien il faut d'accords, combien dure machin, mais c'est selon les codes de chaque endroit, en vrai, quand même. Et sauf que du coup, ça a créé un espèce de genre, parce qu'il y a eu, un truc qui a plus marché. Et, enfin, on identifie tout ce que c'est, on aurait tous du mal à dire ce que c'est vraiment quand même en même temps. Et du coup, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un autre mot, quoi, genre pour style, tu vois, je sais pas, qui en fait pour moi la variété, quoi, en fait.
On met tout dedans, alors que le rap, on arrive à reconnaître du rap. Du jazz, on arrive à reconnaître du jazz, mais la pop.
Et pour moi, c'est de la variété.
Est-ce que c'est pas une esthétique en tant que telle.
D'accord, parce que le rap, par exemple, le rap actuel.
Ouais.
Il a plus grand chose à voir avec le rap d'il y a 25 ans, tu vois. Il y a beaucoup, enfin, il a la même structure,
c'est exactement la même structure.
Et en fait, c'est plus trop du rap au sens vraiment des puristes.
Mais alors, du coup, peut-être qu'il faudrait pas dire que c'est du rap.
C'est pour ça qu'on dit que c'est de la Zumba.
Et en vrai, ça se fait insulter.
Voilà.
Mais parce que peut-être que ça devient plus de la pop que du rap, dans le sens où ça puise dans beaucoup de choses différentes. Parce que quelqu'un a parlé de l'évolution des artistes, etc. C'est vrai qu'on prend les grandes figures historiques de la pop, de Bowie à Michael Jackson, Madonna, aujourd'hui, effectivement, ça peut être une Dua Lipa, j'en sais rien, une Beyoncé, des choses comme ça. Leur particularité, c'est de faire évoluer leur son au fil des époques, souvent en lien avec une forme de tendance, quand même. Et d'être justement, c'est une forme de compétence, d'acuité assez incroyable, de dire putain, là, je sens qu'il y a un truc qui revient.
Je colle à l'air du temps.
Et je colle à l'air du temps, et je suis sur 30 ans de carrière, je suis capable de m'adapter, d'être pertinent tout le long, en piochant à droite et à gauche. Je crois qu'il y a aussi un truc comme ça, quand même.
Oui, mais alors, oui et non, parce que regarde, par exemple, le morceau qu'on a écouté tout à l'heure, bah, ça démarre, on dirait Purple Rain.
Oui, ça va.
Mm-hmm. Purple Rain, c'est 82, tu vois.
Oui, mais il n'a pas fait que ça. En fait, c'est à l'échelle, avec le recul qu'on regarde sur toute sa carrière, son son a évolué.
Ah oui, clairement, ouais.
Mais par exemple, à chaque fois, on dit que les Beatles ont inventé la pop, tu vois. Et en fait, c'est juste qu'ils ont exploser le marché et que du coup après c'est la référence absolue en fait. Et voilà, et que c'était ils ont créé toute une codification justement de structurelle, de refrains, de machin, de pont et tout, enfin
après aussi cette notion quand même de et on en avait parlé avec Agnès Guéraud, c'est effectivement le terme pop, il n'est pas amélioratif, tu vois. Quand tu dis pop, c'est un peu condescendant.
Ah ouais, si on disait populaire, c'est encore pire, en vrai. Mais bon, tu vois.
C'est quoi la musique populaire? Ça dépend des gens, ça dépend de...
Non, dans les...
Tu vois, Francis Cabrel, le mec, il a vendu, il est connu partout en France, tu vois. Est-ce que c'est de la pop?
À ma connaissance, en fait, déjà, la pop et les musiques populaires, c'est pas la même chose pour moi. La pop et les musiques populaires, c'est pas tout à fait pareil. Les musiques populaires, c'est quand même une grande catégorie qui est utilisée, à ma connaissance, en musicologie, dans les milieux universitaires, etc., par opposition aux musiques dites savantes, écrites, etc.
Ou conceptuelles,
voilà, où en fait, il y a un rapport à beaucoup plus d'autodidacte, etc. Il n'y a pas un rapport à l'écriture, notamment, de la musique, etc. Souvent, on cite ça dans les musiques populaires. Et puis, elles sont présentes dans le tissu social d'une manière différentes, etc. C'est pour ça aussi qu'on parle de musique populaire, bref. Et après, il y a un grand spectre hyper varié en réalité au sein des musiques populaires, dont une esthétique qui en fait n'en est pas une, qui est effectivement la pop. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois le truc, et qui justement se démarque par sa capacité à phagocyter un peu, à prendre un peu à droite et à gauche plein de trucs, y compris dans des cultures historiquement underground contestataires, et justement les amener à un public plus large. C'est aussi quand même, à mon avis, un phénomène pop, tu vois, une des caractéristiques de la pop.
C'est que ça dénature tout, du coup.
Et ce qui est à la fois sa grande trahison...
C'est vrai que c'est un principe, c'est un mouvement, c'est une mécanique, quoi.
C'est une grande trahison à la fois, et en même temps aussi un grand truc d'ouverture et d'apport d'une culture, et tu vois, d'être capable de prendre plein de trucs à droite et à gauche.
Par exemple, Jul, tu le mets où, toi?
Et bah, Jul, je pense
pour moi,
qu'il
c'est
est...
de la pop.
Il
pour
est à l'intersection
de la méga pop.
Si on écoute tout. Et pour moi, du coup, à ce moment-là, Nino peut être de la pop aussi.
Ah ouais?
Parce qu'en fait, à partir du moment où tu rentres dans le truc de. C'est la pop culture. Mais du coup, qu'est-ce qu'est le rap alors?
En fait, je pense qu'au sein
En fait, tu perces pas, t'es pas pop en fait.
C'est ça.
Après, Jul.
Non, ça dépend ce que tu fais pour percer. Par exemple, bon, là, je vais parler rêve de Giga Daron, tu vois, mais quand le Wu-Tang il est arrivé. En 93.
T'étais là.
Moi, j'étais là. Je les prends en pleine gueule. Pour moi, c'était du peura. Et en fait, ils ont tout pété, mais ils ont fait zéro concession. C'est-à-dire que j'ai écouté encore l'album 36 Chambers hier, tu vois. Et j'étais avec le chat et on était en mode, putain, il est sec quand même l'album, tu vois. Il a tout pété, hein. Mais les prods, il y a zéro concession. C'est-à-dire que le Reza, quand il a fait ses instruits, il s'est pas dit, je vais essayer d'aller toucher la ménagère ou les kids dans les banlieues. Il s'est dit, j'envoie le son que nous, on a l'habitude de faire et vous le prenez comme ça. Ça aurait pu flop à mort. Il se trouve que ça a marché pour une raison d'époque, de timing, tu vois. Mais c'est, pour moi, c'est ça le truc, c'est tu n'es pas pop quand tu fais pas de concession. Si t'envoies ton son brut tel que toi tu l'as ressenti, sans essayer de le formater, rajouter un refrain, faire un truc un peu plus catchy pour que ça puisse passer en radio, à partir du moment où t'as cette notion de il faut que ça plaise au programmateur en radio, tu vois, je pense que là déjà tu commences à aller vers la pop, parce que tu fais des concessions.
En tout cas sur le côté pop mainstream, parce qu'il existe quand même aussi des pop plus expérimentales, plus...
Mais oui, mais alors les gens qui font de la pop expérimentale qui ne passe pas en radio, tu te dis mais pourquoi vous faites ça les gars?
Pourquoi vous faites autant de mal?
Vous souffrez pour rien. Non,
mais en fait, derrière, et je veux bien que Lindo nous en parle.
Parce qu'on va avoir des amis qui font ça.
Derrière ce truc, il y a presque une question de légitimité, de culture, de background. Et alors, c'est pas seulement où t'es né, d'où tu viens, mais c'est aussi comment tu peux rendre hommage à une histoire derrière la musique que tu pratiques. Je crois qu'il y a un truc aussi comme ça. Toi, par exemple, tu t'es toujours considéré comme un buté de rap et tu t'es dit que tu pouvais être légitime parce que tu connais cette culture, tu lui rends hommage, ou c'était avant tout une forme qui à un moment te plaisait et tu te sens un peu éloigné de sa culture et de son histoire?
Ouais, non, comme je disais tout à l'heure, en vrai, j'ai fait du rap parce que j'écoutais du rap. Et aussi parce que, dans mon lycée, tout le monde faisait du rap. C'était un mode d'expression assez répandu. Mais tout à l'heure, Marguerite, elle a dit un truc auquel je me suis beaucoup identifié, c'est que je pense que j'ai fait du rap parce que je savais pas chanter. Et que après j'ai découvert l'autotune. Mais je pense que c'est arrivé à pas mal de rappeurs de ma génération.
C'est l'accessibilité, donc, de cette forme qui...
Ouais. Ouais, complètement. Et c'est vrai que pour rapper techniquement, t'as juste besoin d'écrire et de connaître un peu, d'avoir un peu un sens du rythme. Donc, mais je suis pas sûr que j'ai compris ta question de base.
Ouais,
personne.
C'est vrai, c'était pas clair. Pardon. Non, c'était ce truc, tu sais, de qu'on sépare culture et forme. C'est-à-dire que là, par exemple, tu parles de la forme. La forme rap, elle est accessible. Là, en l'occurrence, elle est populaire. C'est-à-dire qu'elle est, quels que soient tes moyens, quelle que soit ta formation éventuelle ou non, tu peux t'essayer à cette forme et elle te récompense relativement vite. Là où un instrument, parfois, il faudra 3-4 ans avant de commencer à sortir un truc correct. Par exemple, mais en parallèle de ça, il y a la question de la culture. La question de la culture, c'est quoi? C'est de dire, là, je pratique une forme, mais cette forme, elle a une histoire. Il y a des gens qui l'ont pratiqué avant moi, cette forme, qui viennent d'un endroit peut-être précis, qui avaient peut-être des revendications, il y a des artistes, des morceaux qui ont marqué l'histoire de cette forme, etc. Et là, ça rajoute une dimension où je pense que là, le public est plus exigeant vis-à-vis de ça. Ouais. Quand tu débarques de nulle part et que t'as l'impression que tu dis « Ouais, moi je suis un rappeur », et en fait, t'es pas capable de citer des rappeurs, ou tu ne sais pas l'histoire du rap, etc. C'est là où ça peut parfois tendre, je pense aussi.
Ouais.
Alors pardon, hein, mais Kobalade, frère.
Ouais, mais en fait, c'est pas vrai. En fait, t'as raison.
Même pas qui c'était Ayam.
Alors, certains pensent qu'il avait pas compris. Mais en fait, je pense que ça se trouve, il connaît pas bien Ayam. Mais je suis sûr que par contre, il connaît plein de trucs de rap à côté, tu vois.
Ouais, mais
ils sont plus de sa génération, mais il connaît quand même, tu vois.
Ce truc aussi, il est peut-être un peu paralysant, tu vois. Notamment dans le rap, qui est justement, tu vois, où on mélange le fond, la forme, l'attitude, enfin, le savoir-faire et le savoir-être, tu vois, où en fait, pour être un bon rappeur, il faut avoir aussi la panoplie, le vécu du rappeur. En fait, il y a des mecs qui ont du vécu, qui sont éclatés comme artistes, et à côté de ça, t'as un mec comme Daniel Balavoine, que je considère comme hip-hop, mais à fond la caisse, tu vois. Donc,
je te prends un exemple, Charlan.
Ouais, dis-moi.
T'as déjà mis en avant, par exemple, que dans ta musique, un des ressorts, c'est la colère. Il me semble que t'as déjà dit ça.
Ok, j'ai déjà dit ça.
Ouais, enfin, ou en tout cas, t'as déjà parlé d'une forme de colère que tu retranscris aussi dans ta musique.
Peut-être bien, hein.
Ouais.
Peut-être, c'est pas impossible.
Et ça, tu vois, par exemple, je trouve que c'est un truc assez rap, alors qu'il peut être aussi assez rock, mais globalement assez contestataire,
dire
je mets de la colère dans ma musique.
Bah, le rock aussi, c'est très colérique.
Ouais. Peut-être, j'avoue, je sais pas pourquoi j'ai dit ça et dans quelles circonstances, mais oui, j'imagine, hein. C'était ma vérité à ce moment-là, en tout cas. Mais je sais pas. Bon,
mais de toute façon, c'est toujours des émotions comme ça qui te... Enfin, il y a personne qui est... Tu sais, on parle toujours des trains qui arrivent en retard, en vrai. Si t'es heureux dans ta vie et que t'as absolument rien qui va mal, bah t'as pas forcément des trucs à raconter, et donc en fait, tu vas rien faire, tu vois. La colère, les émotions un peu extrêmes, c'est justement ce qui te drive aussi. Enfin, je considère ça normal.
Moi, en vrai, j'avoue que j'ai commencé vraiment à l'ancienne. En fait, j'ai commencé bien avant de sortir de la musique, d'enregistrer les morceaux, quoi. Je pense que j'ai eu genre 3 ans où je freestylais tous les soirs, genre dans les parkings et tout, machin, vraiment des trucs comme ça, tu vois. Et je l'ai vraiment fait, ouais. Et donc là, oui, tout était en rapport avec... était quand même globalement contestataire, et puis fallait être en tout cas moi je venais, c'était vraiment c'était celui qui dressait le tableau le plus clair, en fait, tu vois, d'une situation et d'un truc qu'on vivait tous ensemble aussi,
parce
tu vois.
Parce que tu viens d'un milieu plutôt populaire, quartier ouvrier de Saint-Etienne, etc.
Mais du coup, c'était à qui fait le meilleur tableau, quoi, en fait. Qui pose le meilleur cadre, quoi. Et voilà.
Mais pardon, mais si tu dis tu freestylais sur les parkings pour 3 piges, comment tu dis je suis pas un rappeur en fait?
Ah mais non, moi je l'ai été à un moment donné. Après,
ah quand même, ok.
Oui, non mais par contre je l'ai vraiment été, j'écoutais que ça, je faisais que ça, et il n'y avait pas d'histoire de refrain du tout, ça n'existait pas, tu vois. Après je pense que il y a un moment où j'ai changé, j'ai voulu devenir... Pour moi, c'est terrible ce que je veux dire, mais musicien, pour moi, c'est pas pareil du tout.
Ah ouais.
Oui, parce que pour moi, c'est une performance. C'est comme un sport pour moi, le rap. Mais c'est le rappeur, je pense, moi, je le voyais comme ça. C'était en mode. Parce qu'en fait, déjà, parce que t'as pas de principe en soi, normalement, t'as un principe rythmique, mais pas mélodique. Tu vois, tout ce qui se passe derrière, si tu vas creuser vraiment fréquentiellement et tout, ça, y a la voix s'harmonise un peu, mais un petit peu. Il y a un tout, mais
le flow, il y a un truc.
Mais normalement, elle est en opposition à l'instru. C'est une bagarre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours perçu comme un truc performatif et sportif, parce que j'ai commencé comme ça aussi, qu'il y avait vraiment un truc de c'est celui qui a le meilleur texte et qui se pose partout. Aussi, tu vois, sur n'importe quel instru, ça marche pas. Tu vois, une top line se met pas sur n'importe quel groupe instrumental, tu vois, ou tonalité, tu vois. Enfin, bon, bref.
Tu me dis ce que t'en penses, ce que tu m'évoques. À la fois, je suis d'accord, à la fois, je suis pas d'accord, et pour un truc important en plus, je crois. C'est le côté performance et compétition, ça, c'est vrai que c'est un truc assez spécifique dans le rap. Il y a un aspect compétitif qui est vrai, et qui naît d'ailleurs aussi de son contexte socio-économique, tu vois, à l'origine.
Ouais,
où il y a un moment où, quand t'es une classe où t'es pas reconnu, dans ta société, tu fais tout pour pour qu'on te respecte, entre guillemets.
C'est embarqué aussi par la société capitaliste. Est-ce que les rappeurs sont pas les plus gros représentants du capitalisme
aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est possible.
Tu vois, écraser l'adversaire, machin, etc. Ok, c'est un truc de compète. Ouais. C'est aussi un truc du capitalisme à balle, en fait. En vrai, si t'étais un rappeur social... Bah, tu serais pas justement dans la compétition. Ouais,
tu peux y être dans l'ostentation.
C'est toujours pareil. Tu sais, c'est un peu comme le nationalisme. Il y a le le nationalisme des oppresseurs et le nationalisme des oppressés. Quand tu es une colonie et qu'il y a un nationalisme pour obtenir ton indépendance, c'est pas pareil que lorsque tu es une force colonisatrice. Tu dis la nation, c'est pas pareil. Et ben c'est un peu pareil, tu sais. Sur la nation.
Oui, j'entends.
Je pense à Garde Algérie.
C'est-à-dire que la compétition.
Lui aussi, je crois.
Ça dépend, la compétition, comment tu la vis, tu es, etc. Et effectivement, quand tu es en difficulté, la compétition, elle peut avoir un aspect sain, cathartique, etc. Mmh. Là où, effectivement, quand tu es impuissant et que tu es en capacité d'écraser les autres, et là que tu dis je suis le meilleur, c'est pas exactement la même démarche.
Oui, sauf que maintenant, aujourd'hui, on le dit, le rap est devenu la pop. Donc le rap est le style musical hégémonique. Mmh. Donc ça veut dire que de opprimés, ils sont passés à oppresseurs.
Oui, en tout cas, c'est vrai qu'ils s'en sortent beaucoup mieux aujourd'hui.
Déjà, il suffit de regarder le groupe thématique, les thématiques générales abordées. Ouais. Tu vois, c'est du coup le rapport il va vraiment extrêmement changé. Quoi. C'est sûr.
Par contre, sur le truc, tu sais, de performance versus la musique, là, par contre, je suis pas d'accord.
Okay.
Parce que déjà, je pense que il y a les rappeurs, mais aussi les beatmakers, les producteurs, les compositeurs, et eux, en général, c'est des butées de musique.
Ah, mais eux, c'est des musiciens, il n'y a pas à dire.
Et je pense qu'en fait, les rappeurs sont aussi musiciens.
Ils peuvent l'être.
Parce que, sinon, en fait, c'est un peu mettre cette culture à part, pas l'intégrer dans la grande histoire de la musique. Sauf qu'en fait, que ce soit à travers le sampling, en réalité, c'est dans l'histoire de la musique.
Non, mais
c'est de la musique, c'est des musiciens, en fait, les rappeurs.
Non, mais par contre, il y a une réalité qui est que.
J'en ai pas vu de rappeur en France.
Souvent, le rappeur fait passer son. Tu vois, contrairement
mais le musicien,
c'est pas qui sont aussi musiciens, compositeurs, tu vois. En fait, il y a plein de rappeurs qui choisissent des sons qu'on fait pour eux. Il y a des rappeurs qui apportent une vraie attention aux instrus qu'ils prennent. Et puis t'en as d'autres, en fait, qui ont peut-être moins d'oreilles musicales et qui choisissent généralement des trucs.
Être un bon auteur, bon interprète, pour moi, il faut être un bon musicien. Il faut avoir une oreille, il faut avoir une musicalité dans ta façon de poser et tout, quand même, tu vois.
Mais le fait qu'un texte de rap puisse se décliner sur plein d'instrus différentes, ça révèle quand même aussi qu'il y a un principe non musical à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire. Même si ça, tu vois. Enfin bon, bref, on peut. C'est la philosophie rapistique, mais bon.
C'est. Marguerite, peut-être que tu peux nous dire ce rapport à. Est-ce que parfois tu te poses cette question de ta légitimité, parce qu'on parle de la culture, du fait que parfois il y a des gens qui disent « Attention, tu nous l'as dit, tu vois, genre, est-ce que je peux me prendre pour une rappeuse ou pas ?» Ça se joue à quel endroit, à ton avis, ce truc de difficulté, tu vois, de se positionner vis-à-vis du rap, tu vois, de l'assumer comme une inspiration ?
Bah...
En fait, je ne saurais pas comment répondre à cette question, mais parce que dans le sens, j'ai l'impression que ça va dépendre des jours. Par exemple, comme je te parlais du fait d'être lisse dans la pop, etc., et que bah, j'ai des sons où je peux parler de trucs un peu plus hard, ou alors je peux avoir une posture un peu plus... Je ne sais même pas comment poser des mots dessus, mais rien que le fait d'être parfois plus garçon manqué, bah à ce moment-là, si je suis dans ce mood-là et que je vais commencer à m'adapter un peu au truc et que, je peux pas. J'ai une capacité à être schlag à plein d'endroits et tout, mais enfin, moins je suis lisse, plus on me considère dans le côté rap. Mmh. Je ne sais pas comment t'expliquer. Mmh. C'est-à-dire que, alors que parfois, si je ne sais pas, je fais un concert et que je décide de me saper un peu plus féminine, d'être un peu plus, de faire plus attention à comment je me présente, bah, tout d'un coup, je n'ai plus cette légitimité. C'est un truc qui me rend fou parce que pour moi, c'est une façon aussi de dénigrer totalement ce qu'est le rap et ce que sont les rappeurs. Mais c'est vraiment un truc de posture. Quand je suis en after, en jogo avec une paire de sandales bah, et que je veux kicker pour gaulerie.
Je m'attendais pas à sandales, j'avoue.
C'est pas on dit claquettes. J'ai perdu tout mon rap. Vas-y. Je fais pour la pop. Vas-y, lâchez-moi.
Jogging, du sandale, bon,
non, mais
sandales.
Bon, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un truc de milieu, de plein de trucs.
C'est très patriarcal aussi.
Ouais, bien sûr, en fait. Et puis, de toute façon, même des copines. Bah, justement, parce que Lace, je l'ai rencontrée parce qu'on a tourné un film ensemble, bref. Et elle. Et elle a raconté comment c'était difficile même pour elle, alors que c'est vraiment une vraie rappeuse. Et si on veut parler de background, d'histoire, de milieu social, elle coche les cases, tu vois. Et pourtant, elle est présente, elle raconte dans ses sons. Elle vient de faire justement l'espèce de freestyle avec Orelsan.
Ouais. Ouais. Elle est
tournée dedans. Un peu partout, ouais.
Okay. Elle
est trop forte, cette meuf, et elle le raconte, quoi. Et voilà, et je pense que de toute façon, quand t'es une meuf, quand t'es une meuf et faire du rap, c'est compliqué, c'est un milieu qui est compliqué.
Il y en a plus maintenant, j'ai l'impression.
Oui, mais t'as eu quoi? T'as eu, comment elle s'appelle cette fille que j'adore? Putain, le Juice, ouais. toute cette veine
Confort
et tout.
Aussi.
Ils ont essayé Canal+ de faire un, je sais pas si vous vous souvenez, ils ont fait les Reines, un truc comme ça.
Ah bon?
Un espèce de docu avec Bianca Costa, le Juice, ouais. Davignor, un truc comme ça. Et en gros, l'idée, c'était de faire un concept où elles sont enfermées dans une baraque, elles font un son. Okay. Avec Chilla, etc. Déjà, ils l'ont appelé les Reines, tu vois.
Et ils auraient pu les appeler les gazelles.
Les reines. En fait, on est des queens et tout, machin. Genre, tout est féminisé sous prétexte de puissance, quoi. Être reine, c'est être puissante. On s'en bat les couilles. Enfin, les mecs, ils disent pas on est les rois. Enfin, c'est autre chose,
ils
en fait.
Ils le disent aussi, mais.
Ils le disent, mais autrement. Enfin, je sais pas comment t'expliquer.
Il y a moins besoin de dire ça direct.
Voilà, de dire ça, de féminiser un truc et d'en faire une espèce de force.
Ouais, mais en fait, le truc, c'est que historiquement, tu vois. Les premières rappeuses, et là je parle des genre MC Light, Queen Latifah, même Dabrat, c'était des garçons manqués. Parce que quand elles sont arrivées, il fallait qu'elles fassent comme les mecs.
Missy Elliott.
Tu vois, Missy Elliott, etc. Donc c'était d'abord des garçons manqués parce qu'il fallait rentrer dedans. Et après, justement, les meufs, elles se sont dit, mais vas-y, nique sa mère, en fait, style tomboy, on a envie d'être des meufs. Et là, t'as eu l'inverse. C'est-à-dire que t'as eu les Lil Kim, Foxy Brown qui, au micro, arrachait tout le monde. Mais par contre, sur les pochettes, c'était la page centrale de Playboy, tu vois. Les meufs, elles étaient quasiment à poil. Tu
comment elle s'appelle la fille qui a fait un single tomboy, mais c'est vieux, d'ailleurs.
Bah, il y en a plein.
Non, putain. Ah ok, je vais retrouver, mais en fait je cherche.
Mais après il y a un truc qui est clair,
en fait c'était par opposition, tu vois, cette surféminisation, c'était aussi pour dire, c'est bon, on en a marre de mettre des baguilles et des chemises.
Mais en fait je suis d'accord, et moi j'ai un peu le double avis, je sais pas, parce que en fait j'ai l'impression qu'effectivement faut être garçon manqué pour pouvoir être considéré par les mecs. Moi qui suis garçon manqué, j'ai plein de potes mecs et je sais qu'en groupe avec des mecs bah il y a pas de problématique. Alors que, mais et en même temps parfois on me demande d'être un peu plus féminine, et dès que et la féminité en même temps, j'ai l'impression qu'elle est faite pour un regard masculin. Donc en fait t'es toujours à travers ce truc là. Enfin j'ai pas envie de vous tunnel avec ça.
Non,
mais
le fameux male gaze.
Oui, voilà, le male gaze, mais il est partout, et je pense que le rap aujourd'hui, juste même la musique en général.
Et puis il y a un truc qui est vrai, c'est que là tu parles des rappeuses, Daz, mais en fait, dès le début, et c'est pas propre au rap en réalité, c'est aussi l'industrie musicale a tendance à invisibiliser les femmes, notamment quand elles sont pas artistes, en plus quand elles sont derrière, etc. Mais Sylvia Robinson, par exemple, c'est une figure hyper importante des débuts du rap. Il y a eu un bouquin il y a pas très longtemps sur elle, de Musul, mais en réalité elle est très peu mise en avant. Alors que tu vois, c'est une entrepreneuse puissante du rap, alors avec ses défauts. Et en fait, on voit que ça traverse l'histoire du rap et l'histoire de la musique. En
oui, l'invisibilisation, c'est un vrai truc.
Oui,
ça,
mais tu vois quand même, dans la pop, on a beaucoup plus de représentations féminines.
Quand c'est les interprètes, les chanteuses, etc. Sur le reste, c'est plus compliqué.
Ah oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Mais en tout cas, on en a plus beaucoup des Justin Bieber, tu vois, des mecs vraiment pop. On a peut-être Harry Styles, tout ça, mais les filles, elles ont cette place-là. Mais parce que c'est un endroit où c'est à leur place. Parce que j'entends un truc général.
C'est, c'est sexy aussi, la pop.
Voilà, c'est sexy, c'est lisse, c'est doux, c'est accessible, c'est familial, c'est tout ce qu'on s'est évoqué avant. Et le rap, je reprends l'exemple de Lace encore une fois, mais parce que je me prends des balles à chaque fois qu'elle pose des trucs, je me dis, elle rappe mieux que je ne vais pas citer les rappeurs actuels, mais c'est vraiment une vraie, vraie rappeuse, quoi. Et pourquoi elle n'est pas considérée? C'est juste parce que c'est une go. Et en fait, c'est même pas tant que les gens n'aiment pas comment elle rappe, c'est que les gens ne se sont même pas posés. Ils sont même pas intéressés. Personne s'est dit un jour. Enfin bref, les mecs ne s'intéressent moins à ça, quoi.
C'était Princesse Nokia que je cherchais.
Princesse Nokia, Princesse Nokia, ok.
Et tu vois, c'est vieux. Moi, c'est la première référence que j'avais d'ailleurs de quelqu'un d'archi badass et qui reste en mode code de meuf quand même. Et qui avait fait du coup le petit Tomboy. Et en fait, j'ai regardé, c'est 2016 quand même, c'est vieux en vrai.
Tu veux qu'on s'écoute ce morceau?
Ah, vas-y, à mort, il déchire.
Un extrait.
Il y a pas mal de gens qui vont le découvrir.
Ouais, on se fait plaisir. Tomboy, Princesse Nokia.
Il est trop bien.
Hey, yo, man, if you finna let me, it's a guarantee that he won't forget me. My body little, my soul is heavy. My little titties be booking cities all around the world. They be fucking with me. I'm a Calvin Klein model. Come and get me. Step the resi up. Don't be fucking with me. My little titties are so itty bitty. I go locomotive. Chitty chitty. Bang bang. Gold hoops and a name chain. 10 boots are like 4 rings. Missy Elliott can't stand the rain. You lame, playing the same games. Little titties not so damn pretty. Staircase in a crack Philly. Little titties in a fat kitty. Big pants and some stuff shoes.
Il est trendable en ce son.
Ouais, grave.
Aujourd'hui, waouh.
Je pourrais tellement faire un truc TikTok
ouais,
dessus.
Ouais, mais c'est hard. Si ça le relance,
Lindo. Raconte-nous, parce que ton dernier album, on disait qu'au niveau esthétique, il est très différent. Est-ce que dans ta façon de travailler, t'as gardé quelque chose qui est un peu rap à ta manière? Même si ça ouais. se retranscrit pas dans le son, tu vois, mais dans ta façon de travailler.
Ouais, en fait, j'allais répondre à la question que tu as posée tout à l'heure et je vais faire un point avec celle-là.
Ouais.
Tu vois, je pense dans le rap, il y a un espèce une attitude commune, c'est que les rappeurs, en plus de rapper, ils ont un side business. Ils ont une boutique, ils ont du merch, ils ont une radio, ils ont quelque chose qui, si le rap ne fonctionne pas, ils ont toujours un truc à côté.
Okay.
Et ça m'avait toujours inspiré, même quand j'étais juste auditeur. Et je pense à des. Enfin bon. Et je pense que moi, mon side business est dans la musique, c'est que le fait d'être producteur, d'être beatmaker de mes propres chansons, mine de rien, ça me rapporte 50% sur mes droits d'auteur. Et aussi dans l'attitude par rapport à comment je me suis positionné par rapport à l'industrie, comment j'ai choisi mes deals, il y a toujours eu quelque chose de... Je pense que j'aurais pas la force d'avoir un business à côté, donc je capitalise tout et j'essaye de faire les bons choix dans la musique. Voilà, je pense que ça c'est...
Tu sais qu'il y a une espèce de truc un peu de hustle ou un peu pris chez les rappeurs. On sait que tu parles de contrats, etc. On sait que par exemple le modèle... de contrats, tu vois, de distribution, par exemple, ouais. il a beaucoup été imposé par les rappeurs, ouais. Par PNL, Jul, etc. Et ensuite, les gens de la pop s'en sont inspirés, je pense, en disant, oh là, attendez, c'est intéressant, là, les contrats de tous ces rappeurs, vrai, moi, je veux le même.
Ça, j'avoue que j'ai rien à dire là-dessus, c'est complètement vrai. Ouais. Ça, ils ont transformé un peu le modèle. Ouais. Tant mieux, d'ailleurs.
Hein. Ouais. C'est à côté.
J'avoue qu'elle est en artiste, l'autre.
Donc toi, il y a une espèce d'attitude vis-à-vis de la façon dont tu organises ton business, dont tu fais ta musique, de tout faire aussi toi-même, de produire, etc. Ça t'a inspiré.
Indispensable. Ouais, je pense que j'avais des modèles. C'était des rappeurs, c'était des Booba, c'était la Skredko, Rof à une époque. C'était des gens qui, même. Je me souviens même plus. Je me suis dit, ils arrivent à vivre de ça. Ils en parlent, en tout cas, comme s'ils en vivaient. Je vais essayer de faire la même chose. Je pense que c'est possible. Donc, ouais.
Est-ce que vous, au-delà de vos cas personnels, entre guillemets, est-ce que vous avez des exemples où vous avez ce sentiment que, là, je parle vraiment du son rap, qu'on le retrouve dans la pop de plein de manières et tout. Est-ce que c'est vous partagez ce constat ou pas?
Moi, je crois qu'il disparaît, là.
Ah ouais.
Il a été là, mais il disparaît maintenant.
Le rap?
Ouais.
Dans le son pop, ouais.
Ouais, mais il a été à mort. PNL, déjà, ça a transformé la variété, en vrai. Tu vois, je pense à Louane, en vrai. Je me souviens qu'il y a eu une transition à un moment, un album de Louane, et d'un coup, c'était des prods de PNL, en vrai, tu vois.
Ah ouais, en mode club rap.
Ouais, ouais, totalement, tu vois. Et après, ouais, non, la pop avait vraiment... Enfin, les producteurs... Déjà, même, en fait, tu regardes qui étaient les producteurs, en fait. Hein, c'était exactement les mêmes. Mmh. Et moi, en vrai, je connaissais une grosse famille de beatmakers parisiens, tu vois, et le producteur, et c'était tout ça plus sur la variété, après, en fait. Ça s'est transformé d'un coup, et c'était les boss. Hein. C'était les boss, en vrai.
Et est-ce que donc, ça veut dire que c'est un peu le truc classique, les hi-hats, les 808...
Je vais même te dire un truc, j'en ai fait les frais et tout machin, un petit peu, légèrement, mais quand même, si tu faisais pas du rap, t'avais plus accès à la variété. C'est pour travailler avec tu vois, il fallait faire du rap.
C'est fou.
C'était la sécurité totale, quoi, tu vois. Mais bon, bref. Après, oui, mais puisque tous les top liners et tout machin étaient excellents aussi. Franchement, c'était des...
C'est-à-dire que donc des gens qui venaient du rap, qui faisaient des top lines pour le rap, ont été demandés dans la pop pour faire des top lines
tous les beatmakers sont devenus top liners aussi. Et en fait, mais parce qu'ils avaient des qualités de musiciens indéniables. Hein, et en vrai, la grande majorité, c'était quand même de très bons musiciens. Et enfin, voilà, quoi. Ça. Et du coup, je trouve que ça disparaît aujourd'hui.
Ouais, même constat, est-ce qu'il y a eu effectivement ce moment, une espèce de hype, de mode, et ça retombe un peu ? Vous avez le sentiment ?
Moi, j'ai l'impression qu'en fait, les gens de la pop ont voulu accéder à ce truc de rap, et donc ont appelé des beatmakers effectivement un peu plus rap, tout en faisant de la chanson par-dessus, ou avec quelques petits placements.
Ce qui pourrait presque être ton cas avec Toonsmatic.
Absolument, absolument, exactement. Ce genre de profil-là. Et à l'inverse, les rappeurs, eux, ont voulu se détacher du truc rap et des prods électroniques et rentrer sur un truc un peu plus organique et tout d'un coup, en fait, même se rapprocher carrément du rock, je trouve, dans l'approche. Je pense à ASAP Rocky, ce qu'il fait là comme projet. J'ai jamais vraiment écouté ASAP Rocky. Je tombe sur un clip à lui et je me dis, mais attends, c'est pas du tout ce que je connaissais de ça. Et j'ai l'impression que les deux se sont échangés un peu les places et tout, et qu'au final, on arrive à une musique qui reste similaire, en fait, partout. Et j'ai l'impression que t'écoutes un son d'Orelsan ou t'écoutes un son d'une meuf plus pop, en fait, il y a plein de choses qui sont liées et je trouve qu'il y a moins de différences dans les morceaux.
Ah, c'est intéressant. Ce que tu nous dis, c'est qu'il n'y a pas seulement un mouvement du rap qui essaime dans la pop, mais aussi la pop qui essaime dans... En fait, et globalement, les frontières entre ces deux trucs sautent un peu et de plein de manières.
Exactement. Et t'as l'électro qui se mêle beaucoup à ça en ce moment. Et je trouve que du coup, bah, c'est pour ça que je trouve que c'est difficile de définir une musique. On n'est plus sur un espèce de truc, comme dirait Spotify, un courant alternatif.
Tu vois, aujourd'hui, ouais.
Et au final, tout est mélangé. Et en même temps, c'est trop bien parce que les gens se permettent tellement de choses sans avoir forcément une forme de légitimité. C'est pas parce que t'as pas écouté de rock pendant 20 ans que tu peux pas faire du rock.
Il y a quand même un point commun.
Il y a plein d'innovations, plus c'est intéressant.
Il y a un point commun, justement. Tu parles d'innovation. En fait, c'est que, on citait Ableton tout à l'heure. En fait, c'est l'outil pour tous les musiciens, quel que soit le genre.
Dans le rap, FL, beaucoup.
Ouais, c'est très FL Studio.
Plus FL Studio qu'Ableton.
Franchement, ton FL Studio, il va être utilisé. Il y a un Ableton dans le coin, vraiment.
À la fin, ouais. À la fin, t'as toujours un Ableton à la fin. Mais c'est vrai que sur la compo brute, il y a très souvent FL.
En fait, la différence, c'est ça, c'est que t'as un beatmaker, le mec qui se forme sur Ableton. Tu vois, il fait ses trucs et tout, et il fait du peura. Et on l'appelle pour faire de la pop. Et en fait, il se rend compte que les mecs qui font de la pop, ils utilisent aussi Ableton. Donc, en fait, ça veut dire que ton skill, il est utilisé, transposable, quel que soit le style musical. Alors qu'avant, t'étais un rappeur, tu faisais ça avec une MPC ou des machins comme ça. Les MPC, elles n'étaient pas utilisées sur un album de Vianney ou de Louane, tu vois. Donc en fait, tu étais cantonné à ton style, tu étais dans ta ligne parce que tu avais une machine qui était propre à ton style. Et en fait, à partir du moment où il y a un soft qui prend tous les genres, du coup, effectivement, tu peux plus facilement changer.
Il y a un mouvement parallèle à ça qui est effectivement la guerre contre le sampling a tellement été importante. Le rap a tellement dû, pour des raisons de droit, économique avant tout, se départir un peu du sampling, qu'il a beaucoup plus fait l'appel à des interprètes, à des instrumentistes, etc., pour venir poser en studio des trucs et tout, et que ça a aussi certainement participé à flouter un peu les frontières, j'imagine.
Le live aussi. Hein. Ouais. Il y a une exigence live maintenant, je pense.
Ça, on peut en parler. Justement, point rap, pop, etc. Parce que je trouve, je sais pas si ça a évolué, mais il y a encore 4-5 ans, des artistes rap qui étaient en fait des artistes studio, qui débarquaient en festival avec très très peu d'expérience, et où en fait c'était très décevant. Mais en tant que.
C'était nul, hein.
Moi j'ai toujours été déçu des rap. À part SCH. Ouais.
C'est toujours lui.
Non, mais parce que. J'adore que les gens aient leur truc en live et tout. Je suis attachée au live et je suis très vite déçue. Et effectivement, le truc studio qui tabasse et qui est trop bien et que tu vas voir en live, en fait, tu te le prends pas du tout. SCH, lui, déjà, ce qu'il a fait sur sa dernière tournée, au-delà de l'attitude, du charisme et tout, il y a des musiciens, en fait. Et moi,
Les premières tournées, c'était comment ?
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de rappeurs que j'ai vus et que j'adore, mais qui sont vraiment solo, CDJ et basta, tu vois.
Après, ça peut être fort si le mec a du charisme. Tu vois.
Mais moi, tu vois, j'ai commencé mes concerts vraiment CDJ, voilà, les bandes et tu chantes, quoi, en mode rap. Et j'adorais, j'ai passé des bêtes de moments et je pense qu'on a quand même eu des bons retours. J'ai pas la sensation qu'on était à côté de la plaque. Mais là, je suis passée à une autre formule avec guitare, basse, synthé et tout. Et en fait, il y a pas photo. C'est tellement plus riche, quoi.
Et ça, Charlan, tu trouves qu'il y a de plus en plus de rappeurs qui s'entourent de bands, etc.
Non.
C'est devenu indispensable quand t'es bien, t'es lancé. Quand les gens se lancent sur des tournées, maintenant, en vrai, c'était de la faute des tourneurs. Je pense que c'était vraiment un truc de faire du blé au max, tu vois. Et vu que les gars avaient zéro expérience de live et que le rap a pas de lien fusionnel et ancestral avec le live, tu vois, en tout cas en France. Du coup, il lançait les gars sur scène en mode allez-y. De toute façon, il y avait du monde, les gens achetaient les tickets et tout. Sauf que je pense que même les maxi fans étaient tous déçus. C'était une catastrophe. Moi, j'ai vu des gens, mais même les rappeurs, tout le monde était mal à l'aise en fait. Mais par contre, ça remplissait. La date était vendue et très très bien vendue. Je pense qu'au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, mais les tourneurs maintenant sont en mode il faut quand même se structurer, avoir un show et tout, et tant mieux. Mais je pense qu'il y a des gens qui se ridiculisaient trop, quoi. Je sais pas.
Après, je précise un truc aussi pour contrebalancer un tout petit peu, c'est que j'ai vu des concerts de rap, notamment des Américains, qui sont en fait juste avec un DJ.
Ah oui, mais c'est
leur. Par contre, quand le mec il arrive tout seul avec son DJ, il en impose tellement sur scène, il a tellement une présence physique que c'est pas grave qu'il y ait pas des instruments.
Mais c'est même mieux des fois.
Et donc le vrai problème.
Tout le monde n'est pas Schoolboy Q, quoi.
Le vrai problème, c'est que les interprètes n'ont pas assez travaillé souvent, n'ont pas beaucoup d'expérience de live, ils n'ont pas le cardio, ils n'ont pas l'expérience scénique, comment se déplacer, etc. C'est ça en fait surtout.
Et puis le show. Ouais, pardon, vas-y.
Vas-y.
Juste le show aussi, c'est un truc, parce que tu vois, c'est dans les jeunes américains en vrai. Et du coup, peu importe la situation, tu fais ton show et même s'il est extrêmement nonchalant et minimaliste, tu vois, bah alors dans ce cas, tu le fais au max. T'as les lunettes ici, tu bouges vraiment pas du tout, t'as 600 milliards de kilos de chaîne, tu vois, c'est des trucs comme ça, tu vois. Tu vas trop loin dans le truc. Ou alors, ouais, t'es très biscotte et tu t'arrêtes jamais, quoi. T'es en mode, wow, elle est bonne là.
Lindo, toi, dans ton rapport au live, il y a des trucs aussi qui sont rap, plus pre-pop, tu mélanges,
Est-ce que dans mon album, là, j'ai infusé le plus possible, c'est la question du live. Okay. Chose qui n'était pas du tout présente. D'ailleurs, il y a une formule qu'on retrouve souvent dans les instrus rap, c'est des loops qu'on met de la 0,0 seconde à la fin du morceau. C'est assez typique, peut-être de moins en moins, même s'il y a des structures qui sont encore bien établies, mais aujourd'hui, là, mon défi dans mon album, ça a été de mettre zéro loop, de jouer la guitare, de jouer la guitare du début à la fin du morceau. Donc il y a des trucs que j'ai hérités du rap, c'est sûr, mais il y a aussi des choses que j'ai voulu laisser parce que j'avais besoin de rendre ma musique un peu plus... Ouais, j'avais besoin de passer par le live, je comprends. Ouais.
C'est-à-dire que, en gros, c'est à la conception du son, t'es déjà en train de te dire il faut que ce truc-là, je puisse le faire en live et
complètement.
Que ça soit carré.
Ouais, et c'est la première fois que ça m'est arrivé. Avant, je pensais même pas au live, comme m'a dit Zed.
Et ça, je pense que c'est un vrai truc de musicien, et c'est effectivement pas un truc de rappeur. Le rappeur, quand il claque un 16, il est pas en train de se dire il faut que ce truc-là, il résonne si je suis sur telle salle, il s'en fout, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là, cette prise en compte-là, c'est quelque chose qui est assez spécifique, quoi.
Il y a des questions qui fâchent. Est-ce que je comprends qu'il y a des gens qui à un moment sont excités par le rap, pensent ça, n'écoutent que ça, etc., ont envie de faire un album rap. Est-ce que lorsqu'ils font autre chose complètement différent, c'est ton cas par exemple Nepsi, c'est ton cas Lindo, est-ce qu'on peut comprendre que de l'extérieur des gens se disent putain mais est-ce qu'il n'était pas un peu opportuniste ? Est-ce que parce qu'à un moment ça vendait le rap, il a fait du rap, et donc maintenant on peut dire pareil de toi, Zedion
Parra. Ah, moi je l'avoue, c'était le cas d'ailleurs. J'ai fait du rap d'abord. Je me suis pas posé la question parce que c'était le truc qui marchait et que j'avais besoin de m'en sortir.
Ouais, j'écoutais du rap. Tu faisais des freestyles dans un parking et
mais
pas
bien
dire,
sûr.
Et dire
mais parce que je kiffais. Mais par contre, j'ai pas pris au début, j'ai pas pris énormément de risques. Je suis pas trop sorti des clous. J'ai vraiment rappé, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Parce que je savais faire et qu'il fallait que je m'en sorte, j'avais pas le choix, quoi. Donc si, il y a un moment...
Une démarche un peu commerciale, entre guillemets.
Ouais, il y a un moment, c'était opportuniste.
Et à l'époque, tu disais déjà, parce que c'était beaucoup plus abstrait pour nous de dire on va pouvoir s'en sortir grâce à la musique. Tu disais...
Ouais. Je me disais qu'il fallait que je monte dans le train, quand même. Mais que ça, en fait, c'est opportuniste, mais c'est un devoir d'époque aussi. C'est un mode...
Il fallait que j'aille. C'est l'expression le plus répandue.
Ouais, voilà. Ouais, c'était pour être entendu, quoi. Mais je pense qu'énormément de gens ont fait ça, en vrai, 1 milliard, tu vois. Et après, je voulais avoir l'honnêteté de, déjà d'avoir une proposition quand j'en avais l'occasion, une fois que j'étais écouté, et voilà. Mais faut commencer par un truc, tu vois. J'aurais pas fait autre chose, de toute façon, c'est ce que j'écoutais et machin. Mais je pense que, ouais, il y a eu quand même une part de, bon, tu veux faire une carrière dans ta vie, dans tous les cas, dans la musique. Commence par ça. Commence par le rap. Ça a été un choix, quoi. J'ai rangé le reste à un petit temps, quoi, tu vois.
Parce que j'ai pas la sensation que ce soit une notion d'opportunisme. C'est-à-dire que, non, mais évidemment, toi, t'es un michto, c'est pas pareil.
Oui.
Mais ce que je veux dire, c'est que ça part quand même d'une passion. Après, je pense que aujourd'hui, évidemment, tout le monde s'adapte. Là, il y a l'immense débat actuel du moment, c'est Angèle et qui fait de l'électro. C'était partout sur les réseaux sociaux. Elle s'est pris une vague de haine de fou. Moi, après, il y a eu d'autres débats, de rave party.
Surtout parce que le clip, on considère qu'il y a eu du plagiat.
Surtout le plagiat, ouais.
J'ai pas trop suivi.
C'est pas tant qu'elle fasse ce son. Le problème, c'est que le clip est en partie coupé, quoi. Et qu'il y a pas trop.
Merde, je ferme la porte alors.
Et ce qui s'inspirait, c'est pas un problème, mais ils ont pas été très clairs sur les crédits, etc. Enfin bref, okay. Y a des gens qui ont considéré en tout cas que leur travail a été pris.
Volé. Ah merde, ok, bon bah, autre exemple, au-delà d'Angèle, ce que je veux te dire, c'est que c'est ce que, par exemple, l'exemple de Charan est bon, c'est qu'en fait, il y a un moment donné, bah, c'est le rap, c'est le truc, et puis t'as aussi envie de faire partie d'une époque, t'as envie d'évoluer avec ton truc, donc c'est pas tant de l'opportunisme, c'est juste, enfin, évidemment qu'à 20 ans, on pense pas comme à 26, et on a des désirs qui évoluent.
Et en même temps, c'est une industrie, l'industrie musicale, et il faut vendre, il y a des labels, il y a des médias qui vont prêter un peu plus attention à des trucs quand ils sont un peu à la mode, etc. Typiquement, effectivement, il y a un moment où le rap a explosé. Déjà, là, d'un point de vue industriel, ça retombe un peu. Le rap est là, il sera encore là demain. Mais il y a quand même un truc de un tout petit peu moins l'hégémonie économique du rap dans l'industrie, avec un retour notamment de la pop, etc. C'est souvent symbolisé par le retour de la Starac, et notamment des stars issues aussi de la Star Academy, des choses comme ça, etc. Et c'est là aussi où on voit qu'effectivement, il y a certaines personnes qui abandonnent le rap.
Mais est-ce
pas,
que
c'est pas pour vous pointer du doigt ou quoi que ce soit, mais
une mode, c'est comme avant on mettait des superstars, bah non, mais plus de superstars.
Exactement.
Mais c'est pas un truc d'opportunisme pour moi, c'est un truc d'époque et de mode en fait. C'est comme tout. Tu vois ce que je veux dire, dans le sens où, par exemple, l'époque où le rap était à fond, l'époque où il y avait Nekfeu. Moi-même, j'étais avec des potos, j'ai 15 ans, je suis là et je voulais kicker, mais parce que c'était tellement un raz-de-marée que t'as envie de faire partie du groupe. C'est comme être populaire à l'école en fait.
Ouais, la seule différence, c'est quand tu le fais à la maison, c'est une chose. Quand ensuite t'en fais une carrière et que tu monétises ça, etc., c'est plus la même démarche. Ouais. Et surtout, t'as une forme de responsabilité aussi vis-à-vis de l'art que tu pratiques et des autres gens qui pratiquent cet art aussi.
Totalement,
tu peux te découvrir une passion, tu peux te découvrir un talent. Et sans avoir. Enfin, c'est-à-dire que tu peux te découvrir le escrow en je sais pas quelle année, 2015, et en fait te rendre compte que t'es brillant dedans, et en 2016 sortir un projet sans forcément avoir 10 ans d'expérience dedans. En tout cas, j'ai l'impression que la musique, elle évolue là-dessus. On n'est pas obligé d'avoir fait 15 ans de conservatoire pour avoir une forme de légitimité dans la musique. Et ça, c'est un truc que moi, au début, j'étais pas du tout d'accord avec ça et je me vivais hyper mal. Mais à force de faire de la musique, je me dis l'art est tellement immense et large et je comprends pas pourquoi on devrait avoir toutes les notions et tous les trucs pour être capable de faire quelque chose qui touche. La musique est là pour toucher les gens. Si ça touche, ça touche, tant mieux. Moi je prends. Et je pense pas qu'il faut toujours. Moi je pense que parfois on intellectualise pas assez, mais je pense que parfois on surintellectualise pour se mettre dans une posture d'un truc de il est pas légitime. Mais en fait, moi parfois j'écoute des gens, ils me bouleversent et en fait je me rends compte que ça faisait 2 secondes qu'ils faisaient de la musique.
En fait, le truc c'est.
Je suis trop brillante. Voilà.
Preach. Le truc, si tu veux, c'est que on peut partir du principe que chacun fait ce qu'il veut. Si c'est ce qui fait plaisir, c'est pour toucher les gens, etc.
Chacun fait ce qui lui plaît. Premier rap français.
Et chacun d'amour.
Eh oui.
Effectivement, c'est pas bien. Non, alors en réalité,
heure du match, j'ai des frissons.
Tu sais qui est la première personne à rapper en France, une des toutes premières, c'est Phil Barnet, avant même Chagrin d'amour. Oui. À la radio, je sais plus si c'est Radio 7 ou quelque chose comme ça.
C'était épouvantable, Phil Barnet. Selon tous les standards, mais c'était du rap.
Mais personne ne le faisait encore vraiment, en France, donc il était quand même pionnier. Bref. En fait, c'est aussi sur. C'est la musique de manière générale, les arts, etc., c'est une dimension politique aussi. Pas politique au sens. Si, je suis désolé.
C'était complètement dégagé de trois quarts des trucs musicaux. En fait, moi, tu peux pas demander à des artistes qui se découvrent une passion et qui se lancent et qui sont complètement dans leur époque de porter avec eux tout le poids et l'histoire du style musical auquel ils s'intéressent. C'est impossible, en fait.
Si tu veux, alors.
C'est même injuste, à la limite, de demander à un mec de 20 ans, en fait, qui se lance dans le peura, d'avoir l'historique de quand même.
Non, il y a un truc, c'est même pas intéressant, parce que je pense que la révolution passe par l'ignorance, d'un petit peu, des fois, dans la musique, en tout cas.
En fait.
Allez, prends la voix.
En fait, si tu veux. Moi, je sais pas. Je pense qu'il y a une forme d'insouciance nécessaire.
Oui.
L'ignorance, je pense pas.
Oui, l'insouciance.
Mais l'insouciance. conscience, oui, c'est vrai, et une espèce de révolte un peu intuitive, un truc un peu d'énergie brute. Ouais. Ça, je suis d'accord.
Et un mimétisme approximatif.
Mais ça, genre, ça ne sort jamais de nulle part. Ouais. Et pour faire une bonne révolution, en général, c'est bien d'avoir écouté quelques disques avant, quelques trucs qui t'ont marqué, de mélanger des trucs ensemble et tout ce qui. Enfin.
Oui, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais par contre, il y a des gens qui créent des mouvements, mais qui sont juste la. Comment dire la. Oui, le premier domino, tu vois, et souvent ce domino, des fois, il est naze, tu vois, mais c'est juste, il y a une idée qui vient d'un groupe nul, tu vois, ce que je veux dire, justement, et là, je peux réemployer ignorant, tu vois, c'est vraiment ça, c'est. Mais qui sont des conséquences générationnelles, tu vois, ce que je veux dire, au milieu de tout ça, et après, ça. Ah, tu vois, t'es pas à l'abri de trouver une ligne de synthé qui fait que après, voilà, je sais pas, t'as tout un courant électro où il y a à nouveau des leads, enfin, tu vois, je sais pas comment dire. Ou alors, tu vois, c'est horrible.
Par rapport à ce que tu disais, Daz, ouais, j'ai pas en vouloir un artiste de 18-20 ans, effectivement, d'avoir pas encore un discours hyper construit. Par contre, je suis un peu plus exigeant avec des artistes qui construisent une carrière au long cours, déjà. Et je pense sincèrement qu'avoir un regard sur sa pratique, sur la musique, sur la place des arts dans une société, ouais, et sur l'histoire et tout, je l'exige pas à tout le monde. Je pense que c'est bien, voire c'est utile.
Mais moi, je suis hyper d'accord avec ça. Mais ça, pour moi, le discours politique, la posture, est-ce que comment tu défends.
Ça, c'est très politique, ça.
Oui, mais ça, c'est important. Ok, c'est important. Après, bon, moi, je trouve qu'on donne un peu trop la parole à n'importe qui sous prétexte qu'ils sont artistes et qu'en fait, ils sont peut-être surtout hyper cons, qu'on n'a pas forcément besoin de savoir ce qu'ils pensent. Mais par contre, ça n'a rien à voir avec la connaissance musicale. C'est-à-dire que tu peux être novice en musique, faire un morceau qui est magique et pourtant et être brillant sur l'histoire de France, enfin j'en sais rien, tu vois, et avoir une notion de culture qui n'est pas forcément liée à la musique. Et je pense que n'importe qui a le droit de faire du son, et j'avais pas le même discours avant, genre j'étais plus en mode non, mais en fait, en vérité, voilà, il y a ce truc de oui, mais non, mais faut tout connaître, faut tout truc et tout, mais on est tellement plus dans ce genre d'époque-là. Aujourd'hui, tout le monde fait tout, quoi. Les gens sont barista, ils connaissent pas le café la semaine dernière.
Mais je suis d'accord avec toi, par contre, c'est un truc.
Un peu attention quand même.
Le café va être dégueulasse. Ouais, mais en vrai, je suis d'accord, mais là où, par contre, où on peut se rejoindre, c'est que je pense qu'avec une carrière et le temps passant, par contre, il y a une responsabilité individuelle qui est. Tu sais, de devenir. En fait, quand t'as du temps en face de toi, je trouve ça impératif de devoir apprendre ce que c'est que.
Je ne suis que d'accord.
Tu vois, je sais pas, un tout petit peu de solfège, un tout petit peu de truc, pour finir sa vie en étant expert dans la musique, t'as passé ta vie à faire ça, tu vois.
Et c'est pour ça que je considère que c'est quelque chose qui prend du temps. Et moi, par exemple, je suis arrivée novice totale. Et j'avais ce truc de putain, mais je suis pas du tout dans la musique et tout. Et petit à petit, il me faut du temps pour comprendre, pour apprendre et pour m'y intéresser.
Et c'est l'absence de curiosité, moi, qui me saoule. Tu vois, il y a plein de gens qui sont archi pas curieux, ça rend fou.
Oui, ça, de toute façon, le manque de curiosité, quel malheur.
Ça peut être d'ailleurs un peu la dernière thématique de cette émission. C'est au-delà du rap. On a beaucoup parlé de rap. C'est quand on construit une carrière en tant qu'artiste, et que justement on a des inspirations un peu à droite et à gauche, et qu'on peut se dire, bah, cet album-là, j'ai envie qu'il soit très marqué par ça, puis peut-être que l'album suivant, il sera marqué par autre chose. Comment on trouve une forme d'équilibre, justement, tu vois, je parlais des critiques et tout, que je trouve aussi parfois légitime, à la fois d'avoir une identité un peu ancrée, un truc, c'est soi. En même temps, surfer avec ces excitations du moment. Je comprends qu'à un moment, tu découvres vraiment les discographies de Prince, de Maj, etc. Ouais. Et tu te dis, putain, j'ai envie de faire ça. Ouais. Trop bien, il n'y a pas de problème. Mais il y a juste un truc, je termine juste, et après vous me direz ce que vous en pensez. Mais il y a quand même ce truc aussi, je pense, d'équilibre à trouver, parce que sinon, tu es juste une girouette artistique, une éponge qui recrache à un moment, tu vois, un plaisir du moment, puis après, tu passes à autre chose. C'est pas ce que j'attends d'un artiste, moi, personnellement.
Est-ce que c'est pas ça, la vie?
Il y a la musique, et il y a, par exemple, connaissant ces morceaux de l'époque et ayant écouté les nouveaux morceaux, c'est musicalement pas du tout la même chose, mais ce que je retiens, c'est sa voix, c'est ses textes, c'est son rapport à l'écriture, et c'est ça le lien entre toutes les nuances musicales qui viennent derrière. En fait, même si, en plus, toi, t'es producteur, c'est différent, mais je pense que t'as le son, quoi, véritablement, le son, les instruments, ce que tu choisis, et il y a ce qui est au centre. Charlens, pareil, il est passé du rap au rock, mais en vérité, sa façon d'écrire, sa façon d'interpréter, son personnage, reste globalement le même, juste il évolue comme nous, humains, on a eu 15 ans et puis on en a eu 40. Enfin, pas encore.
Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
Moi, en fait, là, je découvre, j'en parlais tout à l'heure, Phil Collins, Michael Jackson, mais en fait, quand je repense à mon enfance et aux films qui sont passés en intraveineuse, c'était Tarzan, donc Phil Collins, c'était Dingo et Max, et c'était les Miyazaki, donc les musiques de films, et tout ça. Je sais qu'aujourd'hui, parce que j'arrive à 30 ans à une certaine maturité, j'arrive à me dire qui je suis et quel musicien j'ai envie d'être. Avant, quand j'ai 20 ans, je me pose mais aucune question. Il n'y a pas de métaphysique de quel va être mon métier. D'ailleurs, j'ai jamais voulu faire du rap. Ça s'est imposé à moi. je postais des vidéos, mais à côté, je faisais des études pour faire un métier bien précis. Donc, ça, c'est... Je faisais des études de psycho. Et j'ai fait ça vraiment sans faire exprès. Et aujourd'hui, la lucidité qu'amène un peu le temps, c'est... En fait, je me rends compte que j'ai une audience. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que c'est indispensable de prêter attention aux messages qu'on déploie. Parce que quand on est artiste, forcément musicien, on se rend compte inévitablement que le monde va mal, terriblement mal. Et vis-à-vis de l'audience qu'on a, on est obligé de soit de dire le monde va mal, soit de dire de donner des clés. Ça, c'est indispensable. Par contre, on ne peut pas blâmer quelqu'un parce qu'il s'en rend compte au bout de 10 ans. Peut-être moi, je m'en rends compte que là. Mais avant, moi qui ne voulais jamais faire ça, j'avais aucune question à me poser. Et je me rendais même pas compte que mon message allait pouvoir résonner ou avoir un impact. Aujourd'hui, je m'en rends compte.
C'est intéressant parce que, et je veux bien aussi qu'après, Charlon, tu nous dises ce que tu en penses, ouais. Tu as inclus la notion aussi des fans, des auditeurs, des gens qui suivent ta musique. Ça, c'est une question classique, mais je la trouve toujours hyper intéressante. C'est quand tu fais évoluer aussi ta musique, tu perds des gens en chemin. Enfin, tu as une forme de... Ouais, tu as un rapport quand même aux gens qui t'écoutent, et c'est important aussi de les prendre en considération, j'imagine, tu vois, quand même, à la fois pour ton business, mais aussi parce que c'est des gens que tu respectes, enfin, idéalement, quoi, parce que tu vois, ils vont payer pour venir te voir en concert et tout. Il y a un lien qui se crée quand même avec ces gens-là.
Ouais, mais c'est à eux de s'adapter.
Ah ouais, tu le vois comme ça, toi.
Ouais, ouais. Mais c'est la responsabilité individuelle et... Ouais, et de l'artiste, t'es obligé de t'écouter, sinon ça n'a vraiment aucun sens.
Si pour toi, le principe de l'artiste, c'est j'avance et j'espère qu'ils me suivent.
C'est d'être inaliénable, je pense, et d'être dans une quête de découverte interne et personnelle. Et après, et la responsabilité, c'est la forme et le temps passé à faire ça, et voilà, et la sueur en tout cas dépensée, quoi. Là aujourd'hui, d'ailleurs, ça y va fort,
pas mal, ouais.
mais ouais, non, par contre, c'est aux gens de s'adapter. Après, je comprends, il y a des gens qui le prennent mal, hein, je me souviens. Moi, dans ma transition, alors qu'elle a pas été hyper brutale, avec Bossaigne, avec Bossaigne, ça allait. Moi, j'avais vraiment le sentiment d'accompagner les gens doucement, parce que je savais que j'allais faire l'album encore après, quoi. Et il y a des gens, ouais, qui m'ont envoyé des messages en me disant, tu sais, je sais pas, en mode, pourquoi t'as fait ça, tu sais, qui se sentent abandonnés vraiment.
Vous êtes trahis.
Ouais, c'est ça, ouais, qui se sentaient trahis vraiment et qui me demandaient pourquoi. Et je disais, enfin, bon, je réponds pas, je dis tant pis, quoi, c'est comme ça. Je dis, à la rigueur, félicitons-nous qu'il y ait eu un moment où ça nous a tous plu collectivement, ce que je faisais, et voilà, quoi. Et puis, après, le kiff, ce serait de les rattraper un jour, tu vois. Parce que, effectivement, je pense que c'est une grande, déjà, parce qu'ils étaient plus nombreux et que je mangeais mieux, moi, à l'époque. mais aussi parce que, ouais, en vrai, c'est dans cette quête, en vrai, se tromper, c'est toujours une bonne chose. Par contre, faut être, effectivement, Il faut une intelligence quand même, une intelligence sur le long terme, en se disant bon, je vais pas juste passer 2 ans à écouter un truc, essayer de faire la même chose, tout machin. Faut avoir un grand plan. Moi, c'est ce qui s'est passé. Encore, je considère totalement que je me suis fait un kiff et que c'est un album concept. Sur le moment, je l'ai pas forcément vu, mais je l'ai senti très vite après en me disant je suis quand même trop éloigné là. Mais c'est moi que j'avais trahi, en vrai. Je me sentais plus vraiment hyper bien. Et ça m'a permis de comprendre que le texte et le gros volume de texte est indispensable pour moi, en fait. C'est comme ça que je me sens épanoui, et c'est là où aussi ma force et machin. Et du coup, j'y suis revenu. Mais par contre, si j'avais pas fait le album encore, j'aurais pas pu faire celui qui vient, que moi je trouve être là proche d'une version absolue. Alors, je le trouve pas parfait, évidemment. Mais je pense que le prochain sera bon. Hein. mais non, voilà. Tu vois. Donc en fait, c'est jamais inutile, en vrai, quand même.
Vous partagez, Marguerite, Lindo, peut-être commencer avec Marguerite, vous partagez ce rapport au public de dire c'est à lui de suivre ou c'est un peu différent comment tu le vis?
Bah moi, ouais, enfin après, là je parle en tant que fan plutôt, de Justin Bieber,
ouais.
Premier degré, depuis ouais. toujours quoi, et depuis toujours, donc j'avais 8 ans, et donc il s'est fait tailler, etc. Puis il y a eu le Justin fanboy, enfin que tout le monde aimait, petit jeune, etc. Puis après il est devenu autre chose, juste le fait de se couper les cheveux, il a perdu des gens, puis ensuite il est arrivé, il a fait d'autres sons, enfin en fait le mec il a commencé, il avait 12 ans, aujourd'hui il a 30 ans, je prends un exemple populaire, mais pour comprendre, et là aujourd'hui Justin Bieber il est au summum de la hype, c'est-à-dire que tout le monde l'adore, mais pourtant c'est fan de l'époque ne l'aime plus. Et
ensuite, il les a pas récupérés, il a récupéré.
Non, il a perdu beaucoup de monde. Et en même temps, il en a récupéré d'autres qui étaient ceux qui critiquaient avant.
Ils avaient 8 ans, ces fans aussi.
Non, mais c'est, oui, mais ces fans, genre, oui, mais en fait, alors, on me chauffe pas. Parce qu'il y a un truc chez les fans de Justin Bieber qui est quand même la loyauté. Voilà. Qui dure.
Mais en fait, moi, je pars vraiment du principe que l'auditeur et l'artiste, en fait, ils ont des intérêts divergents. Okay. C'est-à-dire que l'auditeur, il va te kiffer à un moment donné, et pour lui, il faudrait que systématiquement tu continues à faire la musique qui va te projeter dans le même moment que quand tu t'as découvert.
Mais ça, c'est un mauvais auditeur, parce qu'un auditeur, enfin par exemple, les artistes qu'on aime véritablement, on est supposé aimer aussi au-delà de la musique. Enfin moi, c'est comme ça que j'aime m'intéresser à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont été, quels sont leurs... Et c'est d'ailleurs pour ça que quand un mec est accusé de trucs horribles, c'est difficile après de garder un lien avec la musique, même si forcément t'aimes les morceaux. Bah du coup, je me dis, mais pourquoi un auditeur, tout d'un coup, leur chanteur préféré, Zed Yoon, bah il teste d'autres choses, il goûte à d'autres choses, c'est des choses qui font partie de lui, de ce que t'as aimé de lui, pourquoi tu lâches ? Et ce truc d'enfermer les artistes dans des boîtes comme si on était, c'était des jouets, j'ai l'impression les qu'on est dans Pokémon, Truman en fait. Show, tu vois, et moi ça me rend ouf en fait. Mmh. J'ai vu d'ailleurs le gap de Zed Yoon et je trouve ça fou en fait.
Oui, mais en fait tu perds des gens mais tu vas en gagner d'autres. Donc...
Bien sûr, mais je comprends que tu n'aimes plus la musique, que ça te touche moins, c'est pas ton style, mais que tu abandonnes le chemin de l'artiste.
Ouais, c'est dommage. C'est grave dommage et c'est pour ça que je suis quand même assez content, mais j'ai un noyau dur assez ouais. important quand même. Et je me rends compte en fait maintenant les gens n'attendent rien particulièrement musicalement, tu vois, ils attendent que je les surprenne en fait. Exactement. Et ça déchire. Et du coup, moi, je suis au paradis, en vrai, tu vois. Donc,
Lindo, t'avais été le premier à ramener cette histoire du public. Comment tu vis ça, toi ?
Je repense à un tweet à l'époque de Tyler, the Creator, qui répondait à un fan qui lui disait « Pourquoi je referais un même son alors qu'il est disponible déjà et tu peux l'écouter en boucle ?»
Ouais, bah ouais.
Notre truc, je pense, c'est de se trouver, de faire la musique la plus proche de nous, le reste. En fait, l'audience vient en dernier, même si je pense qu'elle est indispensable, parce que moi, sans l'audience, je fais un autre métier, je kiffe moins ma vie. Donc elle est indispensable, mais c'est une autre phrase aussi.
Vas-y.
Je crois que c'est plus qui dit ça, mais en gros, quand tu penses à l'argent et que t'es en studio, il y a Dieu qui sort de la pièce. Bah, c'est pareil pour l'audience. Si t'es en studio et il y a l'audience dans la pièce, bah, la magie, elle s'en va. Et pour autant, elle est indispensable, l'audience. Mais quand on parle de la création pure, la musique, je pense qu'il faut juste penser à l'émotion et oublier ça.
Puis c'est tellement cathartique déjà de faire ses morceaux, d'écrire sa vie, de réfléchir. Puis après, t'as le label, puis après, t'as le management, puis après, t'as le machin. Si tu commences à penser à tout le monde, tu fais de la pop. Non,
en vrai, c'est une super conclusion.
Quelle conclusion.
J'avoue que c'est parfait. J'avoue, il n'y a rien à dire.
En vrai, je pense qu'on a fait un bon tour, mine de rien, de la discussion. Et on commence à se liquéfier littéralement. Il fait très 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 chaud pour ce dernier épisode de la saison, Daz.
Ouais. Est-ce que vous vous souvenez, la tête, parce qu'on parlait du coup parce que je parlais de Louane qui avait fait un album qui avait que des prods de PNL, mais du coup il y a eu un peu, le courant un petit peu inverse, avec un morceau horrible de Benjamin Biolay avec de l'autotune, là, où il dit pieds nus dans l'Air Max.
Non, j'aime pas.
C'est catastrophique. Ouais.
Attends.
Vas-y, on l'écoute, c'est quoi?
Toi, tu l'aimes bien et tout.
Non, j'aime bien Biolay, mais alors j'ai pas ça.
Attends, je te le trouve en une seconde.
Pieds nus dans l'Air Max, déjà.
Et c'est un sous autotune à blinde.
Ne faites pas ça. Hein.
Non.
Mettez des chaussettes.
Après, moi, j'aime bien quand des artistes qui sont, tu sais, se mettent à l'autotune et expérimentent avec pour se marrer.
Là, en vrai, mais
après, si c'est pas bien.
Là,
c'est, pas bien,
c'est avec le texte que ça va pas, en fait. Parce que tu mets l'autotune et tu dis pieds nus dans l'Air Max. Ouais. Deux minutes.
Vas-y, attends, on écoute. Pas très bien réglé et tout.
Codeur.
Allez, c'est parti.
Faudra qu'on écoute autre chose après pour partir sur une bonne note, quand même, s'il vous plaît.
Je vais me taper des barres. Pas mal.
C'est Frenchy, quoi.
Alors, ouais, je prends mon temps, je le sais. Mais j'ai vu la mort. Trop près.
Ah ouais, faut rentrer la note normalement.
Ouais, longtemps, je le sais, ça te fait peur, ça t'effraie. Ni gauche, ni droite, hyper tranquille dans la super grande ville. Ni bombe, ni blast, hyper tactile sur les plages textiles. Ça t'énerve, ça te met à cran, va prendre un peu l'air.
Il a pas dit qu'il y avait un axe encore.
Dedans. ouais, je prends mon temps. Alors ouais, je prends mon temps.
Ça, ça peut être un best TikTok, faut dire.
Alors ouais, je prends mon temps tout le temps. Hyper tranquille dans ma super grande vie. Alors ouais, je sens le vent.
Tu sais quoi?
En vrai, ça passe.
En vrai, je comprends ce qu'il a voulu faire.
Non, mais moi un truc aussi. Frenchy, c'est quand même.
Mais ça marche pas complètement.
Ça marche pas.
J'adore.
Quoi.
C'est à cause du mix.
Tu penses? Ouais, non, mais déjà, il y a un truc effectivement de réglage d'autotune.
Bah, bien sûr, il n'y a pas la gamme, quoi.
Il y a un problème de réglage d'autotune. Juste. Et son côté susurré, qui est sa marque de fabrique, oui. Avec l'autotune, marche. Il aurait dû adapter sa façon de chanter.
Ah ouais.
Après, j'aime bien le côté. Tu sais, dans la composition, il y a ce côté un peu élégant, quand même. À la
oui,
etc.
C'est
le contraste des deux est
c'est très
fine, intéressant.
Oui.
Très élégant.
En fait, ça peut bien vieillir, bizarrement.
Non, ça peut être lié, mais en mode pas bien, quoi.
Si, ça va prendre un retour de hype, je pense, un truc comme ça.
Je te jure, là, on fait une vidéo sur TikTok, le son, c'est un buzz.
Oui, parce que c'est bizarroïde, quoi.
Ouais, voilà.
Ouais, c'est la traîne des Air Max sans chaussettes.
Ouais, pieds nus dans Air Max.
Ouais,
ça. Essayez.
Et vous savez quoi? Pour pas terminer sur une note un peu moqueuse.
Oui.
On a une tradition dans cette émission, c'est de terminer avec des recommandations musicales.
Oui.
Ah génial, j'adore faire ça.
Chacun. On va pouvoir écouter une minute trente d'un morceau que chacun choisit. On l'écoute, on s'écoute ça à la suite. On peut commencer avec Daz si vous n'avez pas d'idée. Si vous avez déjà une idée, on peut y aller aussi. Vous pouvez regarder dans vos téléphones,
moi,
effectivement.
Ah, moi, tu sais déjà? Ce qui est horrible, c'est qu'il y a plein de fois où je suis en mode, OK, je vais donner de la force à ça et tout machin. J'attends qu'on m'invite quelque part et que je puisse le faire. Et sauf que c'est souvent trop long et du coup, j'oublie, quoi. Et c'est dommage.
Ouais, Marie,
moi, en ce moment, depuis un an, j'arrive pas à écouter autre chose que de la folk.
Okay.
Je suis que dans la folk.
Okay.
J'ai découvert un artiste qui s'appelle Fruit Bats.
Okay.
Et le son, c'est Humbug Mountain Song.
On dit-le, s'il te plaît.
H-U-M-B-U-G.
Je l'ai.
Mountain Song. Et c'est genre. J'ai envie de faire de la folk, en fait. Voilà.
Et ben, on s'écoute ça. Fruit Bats, Humbug. C'est toi qui l'as dit comme ça.
Humbug.
Probablement. Je sais pas, elle veut le dire à la suédoise. Je sais pas comment elle le dit.
À la chirurgie.
Humbug.
Écoutons ça, en tout cas.
C'est joyeux à la fois, t'as envie d'être dans une petite caisse et tout. Et à la fois, genre, hier, j'écoutais ça, j'ai fait une insomnie, je fumais une
cigarette.
Voilà, et j'étais tout émue, quoi.
Oh là, oh, scène.
Bon, ouais, c'est bien. Hein.
Ouais, c'est sympa.
Ah bon, avec votre rap, là.
Ah non, en vrai, on écoute avec
vos
rap. Daz, il écoute un peu que du rap.
J'écoute pas que du rap.
Mais beaucoup.
J'écoute beaucoup de rap. Ouais. Ouais.
En attendant, c'est la première fois depuis 2 heures que je te vois bouger la tête.
Non, j'ai aussi bougé
le truc,
non,
sur le tomboy
ouais,
là.
Le petit banjo là était.
Ouais.
Ça, il était mousse.
En l'écoutant, je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas.
Bah, le banjo, il va fort.
Ouais, c'est cool.
Moi, je suis un peu fâché avec le rap là.
Pourquoi?
Depuis quelques années. Je sais pas, je trouve il y a pas la nourriture que je recherche. Je sais pas quelle est précisément la nourriture que je recherche, mais quel est le morceau de rap français aujourd'hui qui pourrait, selon toi,
français me... Ah, français, c'est compliqué. Ouais. En fait, la scène.
Ah non, américain, je peux écouter du rap américain. Ouais. Non, c'est plus en France.
En vrai, moi, je suis un mec de niche en plus, tu vois. J'écoute même pas les trucs.
Et les rallyes, les gars comme ça, rallyes, moi, je me suis pris de fou.
Tu vois, j'écoute pas ça, moi. En France, là, j'avais découvert. Non, mais.
Si, t'as bien aimé TH.
Ouais, mais TH, ils sont plusieurs dans sa tête, donc c'est spécial. Mais non, il y avait un petit groupe là, c'était. Ah merde, putain, j'ai fait un reel dessus.
Un groupe de rappeurs.
Identité, ouais, deux mecs, Cham Rapper et Rice, Brice. En fait, ils font du rap un peu à la Alchemist, okay, Larry, ouais, June, un peu de Romeless, ouais, et tout. Et en, ouais, fait, j'avais pas trop entendu de français faire ça, ouais, tu vois. Et je trouvais ça cool, Cham, okay, Rapper. Et l'album s'appelle Identité, ID. Et je le trouve cool. C'est pas Marocco, néanmoins. Okay. Je les recommanderai à la rentrée, mais okay, on peut en parler après si tu veux.
Lindo, est-ce que t'as toi ton morceau?
Ils ont plus,
non,
ouais,
pas encore.
Pas besoin de force. Hein.
Vas-y, on enchaîne. T'as une idée toi?
Ouais.
Il n'a pas voulu vous
diffuser. On va partir à Memphis. Yeah. Avec un mec tout dans la subtilité qui s'appelle Gangsta Pat.
Ok.
Patrick le gangster. C'est du son de Memphis. C'est des classiques de Memphis, époque Tri-Six et tout, tu vois.
Ok.
Genre, je sais pas, peut-être 95, 96. Le mec, il a repris le même sample de Michael Jackson qui avait été utilisé par LL Cool J pour Hail Over avec les Boyz II Men.
Ok.
Et il y a du synthé parce que c'est de la musique du sud, donc de la musique de l'ouest, et ça te défonce en fait.
Et le morceau s'appelle comment ?
Il s'appelle I Wanna Smoke.
I Wanna Smoke.
Ce qui est réel en plus.
Gangsta Pat. Avec Psycho aussi, je sais pas qui est Psycho. Mais...
Exactement.
On s'écoute ça.
I just think I'm having another ache attack. I like to smoke so much weed, it's a need. I got a head foot in my system, black, laid back with a yak and a sack of Fender with my Cadillac. To feel as a chill as a pose for the hoes. Man, I'm so hot, I feel like I'm about to float up in the clouds and touch the sky. The sky chronic has got me so dazzled and amazed. I wanna smoke until I pass out, get the mask out, and let me hit it until this chronic knocks my ass out. I'ma crash out and sleep until morning. I'm yawning, so what can I say, man? But a day, man, I don't think that I can even go without smoking hate, man. Don't pass me a swisher and let me split the middle and fill it with weed and lick it and light it and cheap it and pass it around to my crew, cause I know that you need red rum, nigga, smoke bud by the pound. And it's all good in the hood, we chillin' and cheapin', hanging out in the Brookwood. My nigga, I figure I need more weed so that I can choke up feeling and dreamin' about that chronic I wanna smoke.
Grave pop, ça, je suis
désolé. Bah, maintenant, la pop ressemble à ça, moi je suis content. Oui. Moi, je suis ravi. Hein. Continuez à faire de la musique que j'aime, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est un morceau pour l'été.
Très bien.
C'est très
ça
chill.
Ça m'a pensé à Flatbush Zombies.
Ah.
À l'époque.
Ouais, j'avoue, à mort, totalement. Okay.
Est-ce que vous avez...
Il est pas content, il est pas content.
Non, on peut.
Bah, c'est plus sombre quand même, ouais, Flatbush Zombies, quoi. Un peu plus... ouais,
j'ai un morceau en tête, ah ouais, je me rappelle plus.
Peut-être le seul morceau lumineux des.
Ouais, c'est clair. J'enchaîne, vous avez trouvé, les gars.
Ah, vas-y.
Toi, t'as fait un
morceau? Ouais, j'ai
toi
potentiellement.
Ah, mais vas-y, fais la tienne.
Je fais, c'est vrai, ok.
Ouais,
ouais. Bon, alors, comme elle m'a challengé, la Marguerite, genre, vous avec le rap, figure-toi que j'écoute du rap, mais c'est pas ce que j'écoute le plus en réalité.
Alors, qu'est-ce que tu veux mettre?
Mais pour aller même complètement à l'inverse, je vais mettre du pop-rock un peu, tu vois. Et notamment un truc que j'ai redécouvert.
Classique, quoi.
Et qui est un morceau, peut-être que certains vont le trouver un peu ridicule, moi je le trouve trop bien, parce que c'était le générique d'une série. Est-ce que vous vous rappelez des Frères Scott, One Tree
Hill? Bien sûr.
Évidemment.
Est-ce que vous voyez le générique de One Tree Hill? C'est un artiste qui s'appelle Gavin DeGroux.
J'ai adoré ça.
Et franchement, autant la série hein, est nulle, désolé.
Série de blancs, comme j'appelle ça.
Je sais pas, ça, mais en tout cas, elle est pas ouf.
Oh, ça va pas dire.
Mais par contre, le générique,
salopard.
I Don't Want To Be de Gavin DeGroux, c'est incroyable, et on s'écoute ça.
Allez.
Okay. I don't need to be anything other than a prison guard son. I don't need to be anything other than a specialist son. I don't have to be anyone other than a birth of two souls in one. Part of where I'm going. All I can do is think of me and our peace of mind. I'm tired of looking around the room, wondering what I gotta do or who I'm supposed to be. I don't wanna be anything other than me.
Et
Et tu vois, je sais pas pourquoi.
C'est efficace.
C'est trop bien, c'est trop efficace, effectivement. Et je me suis. Je sais pas pourquoi ce morceau m'a à nouveau obsédé. Et je l'écoutais il y a, je sais pas, il y a 15 ans, tu vois. Un truc comme ça, 10, 15 ans.
Tu vois, ça veut dire que s'ils avaient changé de style entre temps, eh ben, tu serais revenu peut-être les écouter depuis. Tu vois.
Et non, mais alors, tu sais ce qui est terrible. Alors, c'est un mec, Gavin DeGraw. Et justement, je suis allé voir un peu sur Internet ce qu'il devient. Ouais. J'ai tapé sur YouTube. Est-ce qu'il l'a joué en live? Alors, déjà, il a une voix de malade. Il a la même voix en live. Il chante trop bien, le mec. Mais alors, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, je crois que depuis, il est invité dans tous les stades américains, tous les trucs de baseball, de machin, etc., pour faire cette chanson uniquement. Et le mec est trop fort, vraiment. Il chante trop bien et tout, il joue tout.
C'est la malédiction, ça.
Mais je crois que ça a été un One Hit Wonder. Après, il a fait quelques albums qui ont marché un peu aux États-Unis, mais incomparable avec la hype qu'il avait eue avec ce morceau, quoi. Voilà. Mais respect à Gavin DeGraw qui est hyper fort.
Ouais, bravo à toi.
Franchement, j'ai adoré.
Parfait. Bon les gars, Lindo...
La Rocco, c'est un morceau connu ou pas?
Non, ce que tu veux. C'est soit, en fait, soit un de tes classiques, soit un truc que t'as découvert récemment.
Une artiste un peu low-key, ou alors un hit, mais que je me suis pris récemment. Aïcha.
Aïcha?
Aïcha.
Aïcha de Khaled?
Ouais.
C'est vrai?
Exceptionnel.
Vas-y.
Ouais.
Vas-y.
Ouais,
en vrai, c'est bien.
Mais c'est trop fort.
Ah ouais, pas mal, 30 ans de lag, mais.
Eh bah écoute. Est-ce que tu t'es pris Didi?
Non. Meilleur
morceau de Khaled.
Ok.
Didi.
Attendez, excusez-moi, Khaled, on sépare l'homme de l'artiste ou ça se passe comment dans cette histoire?
Je suis passé à côté d'un truc.
Je crois qu'il a un truc, genre un peu abandonné sa famille et tout. Mais c'est pas Cheb Mami non plus. Cheb Mami.
Ah, je confonds avec Cheb Mami.
C'est limite border ça.
Je confonds les Arabes.
Putain. Cheb Mami, il a un truc hyper sombre, assez horrible.
Il battait sa femme. Mais Khaled aussi, je crois, il battait sa femme.
Je crois qu'il y a des histoires autour de ça, ouais. Mais Cheb Mami, c'est un truc bien. Ouais, c'est un truc, il y a un truc autour d'un avortement de force, etc., qu'il a fait enlever une femme, etc.
C'était pas le Zidane, ça?
Bah, ok. Non, ça, c'est un truc très sombre.
Il y a quand même un coup en commun à tous.
Mais Khaled, c'est bon. On accepte encore.
Ok. Moi, je suis pas sûr, mais je me désolidarise. Ne cancelez pas, venez pas me péter les couilles sur les réseaux, s'il vous plaît, je vous en supplie. Écoute, j'ai pas l'humeur à ça en ce moment.
On écoute en tout cas.
Allez, vas-y. Aïcha. Incroyable.
Et il faut que tu écoutes Didi, Lindo.
Sans faute.
Ah, j'avoue. Ça me le fait.
Ah ouais, incroyable. C'est écrit par
Goldman.
Ouais.
Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi au retour de ton cou. Les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes.
Morceau incroyable, qu'est-ce que je te dise.
C'est trop. Hein.
Mais et puis
petit riff de guitare là.
En vrai, moi je veux une utopie, une dystopie pardon. Enfin je sais pas quoi. Tu vois qu'un monde alternatif où il n'y a pas eu le 11 septembre et que grâce à Khaled, Fadel et tous les Arabes étaient cool et ils le sont restés. Tu vois.
Eh oui, mais Oussama est passé par là frérot. C'est ça le truc. Ouais. Vous avez
c'est
eu votre
dur
moment,
depuis.
Il a fallu en profiter. Ça a duré 2 ans.
Il a merdé après la CIA. Hein. Il a fait un
Non, mais pendant 2 ans, vous marchiez sur l'eau, les gars. Bravo.
Avant, il fallait se faire passer pour les Italiens. C'est compliqué.
Il continue encore, mais bon, bref. Pas une émission.
Tu les connais, les Italiens à Saint-Etienne?
Ouais, bah ouais.
Grosse communauté d'Italiens.
Et Grenoble dans la région aussi.
Bien sûr.
Grosse communauté italienne.
Ah oui, je sais pas, il y a un mec, c'était quoi, c'était il y a 2 ans là, qui s'était fait aller choper, qui était en fait un énorme mafieux oui. italien, là, c'est pour ça que tu parles de ça.
Oui,
qui était planqué à Saint-Thé sous une autre identité en tant que pizzaïolo.
Mais réellement, et c'était genre un ponte
de la Camorra.
Mec mafieux italien, mais il reste pizzaïolo quand même.
Ouais, tu sais, ouais. Il était rangé justement.
C'est soit dentiste, un truc, tu sais, genre en mode.
C'est un truc de film.
Ouais, c'est un truc de film. Ouais, c'est ouf. Et le mec, il est stylé, en plus, il a une bonne tête, quoi, tu vois. Marocco.
C'était un assassin, mais
c'était un assassin.
Mais une bonne
tête. Là, je veux dire, dans le folklore mafieux italien, il marche quoi. Qu'est-ce que c'est que Marocco? Ouais, si, moi, du coup, c'est un groupe anglais, d'ailleurs, dont j'ai le t-shirt là.
Ah.
Sorry. C'est l'une des amies aujourd'hui, donc Dieu merci.
Cool.
Comme quoi, des fois, l'univers fait bien les choses. Et en gros, ça a été, moi, le groupe que j'ai le plus écouté l'année dernière, sur mes trucs Spotify, quoi. Et il y a un des morceaux qui a conditionné quand même pas mal, je pense, mon album à venir, quand même. Et il s'appelle Screaming in the Rain, de Sorry.
Et voilà. Et ben bah, voilà. Et ben bah, il reste plus qu'à l'écouter.
Et ben bah, c'est parti.
C'est parti.
Ben bah, oui.
Total.
C'est complètement ma vibe, j'adore.
Ouais, c'est un chef-d'œuvre absolu cette merde. Et il mérite de la force, c'est pas un gros groupe en vrai encore. Okay. En Angleterre, ça se met un peu à marcher, mais voilà, si j'aimais pas autant Marguerite Thiam, je les prendrais en première partie à l'Olympia. Mais...
T'inquiète pas, j'ai eu les échos, frère.
D'ailleurs. pour le dire quand même avant qu'on se quitte, Lindo, t'as sorti ton album, tu nous rappelles le titre?
Dans le lointain de ta voix.
On peut le trouver un peu partout. Tu vas tourner un peu pour défendre cet album en live?
Surprise.
Ok, bon, on va suivre les affaires alors. Zedoun Pavarotti, on sait qu'il y a un album en préparation.
Ouais, ça sort quand ça?
Ça sort fin juillet.
Non, mais bah alors...
Oui, mais enfin à la rentrée quoi.
Ouais.
Oh. C'est dommage, j'aurais bien aimé donner le titre, mais c'est pas maintenant.
Et on peut pas... Par contre, ce que je peux dire, parce qu'on avait l'autorisation de diffuser un petit extrait, bon, on n'a pas eu l'occasion, mais c'est pas grave, c'est qu'on vous retrouve ensemble sur l'album.
Exact, oui, ça, en vrai.
Featuring Marguerite Thiam, Zedoun Pavarotti.
Premier featuring officiel sur un de mes albums. Ouais.
Bon, et toi, Marguerite, bah, y a tes 2 EP toujours disponibles. Et on imagine qu'une suite se prépare, on va suivre ça, on verra bien.
Y a rien qui arrive, ok?
Y a rien qui arrive. Peut-être des concerts d'ailleurs, Charlan, Marguerite, des trucs prévus?
Ouais, en octobre, moi, je sais plus à partir de combien, mais bon, j'ai 6 dates, mais absolument, c'est complet, ça sert à rien. Mais j'ai l'Olympia.
Ah, cool.
En février. Là, c'est pas encore complet, donc on peut y aller quand même aisément.
Cool. Et toi, Marguerite, des trucs prévus un peu?
Moi, j'ai une boule noire en février. C'est le même jour que ton Olympia, je pourrais pas faire ça.
Non.
Je rigole.
Ah,
ouais, t'étais content. Hein.
Non, j'étais triste. Non, moi,
j'étais content.
Daz.
Ouais, moi, j'ai un Olympia qui. Hein.
T'as un Olympia aussi?
Ouais. Non.
Faut le remplir.
Ouais. Je vais à l'Olympia.
Tu sais qu'on a 2 messages répondeurs.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette.
On a mis en place, on a fêté la 100e de ce podcast là durant la saison.
Ah, félicitations déjà.
Merci beaucoup. Et on avait mis en place un répondeur pour que les auditeurs, les anciens invités, etc., puissent nous laisser un petit message.
Okay.
Et donc on en avait eu plein, c'était trop cool, on s'était écouté ça pour l'épisode spécial et tout.
Et on l'a laissé ou pas là, parce que...
Non, ça va. En fait, on l'a laissé ouvert depuis. Bon, on a eu très peu de messages. On en a un ancien que j'avais pas vu qui arrivait un tout petit peu après la centième. Ouais. Malheureusement, on n'a pas pu le diffuser dans la centième.
On est à la 121e là quand même.
Exactement. Il y a 21 okay. épisodes de retard. Désolé à François qui avait laissé ce message. François. Et on a un deuxième après. On commence par écouter François.
François, notre François.
Non, c'est un autre François.
Ah, un autre François.
Un auditeur.
Vas-y. Ok.
On l'écoute.
Let's go.
Hello Daz, hello Salman, c'est François de Bruxelles. Bah, malheureusement, j'ai pas pu être à temps pour vous laisser un petit message pour la 100e émission, mais j'en profite. Apparemment, on peut toujours vous envoyer un message, donc j'en profite tout de suite. Un immense merci, vraiment, pour tout le travail que vous avez fait, la qualité de cette émission. Il y a rien à faire, c'est pas pour rien que c'est depuis déjà 2-3 ans mon podcast préféré, celui que j'écoute le plus chaque année. Fun fact, moi je vous écoute souvent le matin et le soir quand je pars au travail et quand je reviens du travail dans le métro. Ça fait du bien de vous avoir, de vous écouter, d'écouter vos invités. Bah, dans les émissions, moi j'aurais mis celle de Wally qui m'avait vraiment beaucoup plu, et une un peu moins connue, en tout cas peut-être moins écoutée, c'est celle sur les musiques orientales que j'avais beaucoup aimé, mais il y en a tellement. Voilà, un tout tout grand merci pour tout le travail que vous avez fait, un immense bravo à toute l'équipe, à la bouclette, à François, ben oui, forcément, il fallait quand même que je lui fasse un petit coucou. Et voilà, dans les suggestions, si un jour on pourrait une fois parler de tout ce qui est label, de, un peu de cette approche d'à une certaine époque où on guettait les sorties uniquement par label, c'est une approche de la musique qui est aussi intéressante. Voilà, je vous dis ça parce que moi j'ai un petit label de jazz, fusion.
Tu me disais aussi. Ouais.
Et un petit label de anglais qui s'appelle Moax, que j'aime bien aussi.
En fait, c'était des labels qu'il aime, c'est pas son propre label.
Oui, d'accord. Ouais, ouais. Okay. Ah, d'accord.
Et merci François déjà.
Merci François.
Pour tous ces compliments et tout, ça fait trop plaisir. Merci de nous écouter.
Joli compliment.
Et, oui. Bah ouais. Bah,
les labels sont gentils. Hein.
L'épisode avec Wally Badarou, c'est vrai qu'il est trop bien. Un de nos épisodes favoris. Vous connaissez Wally Badarou?
Alors,
voilà, bah, c'est ça le truc. Okay. Personne ne le connaît, mais tout le monde le connaît.
C'est un musicien français.
Okay.
Qui en fait a bossé dans le Compass Point, qui était un studio aux Bahamas qui avait été monté par le mec qui avait découvert Bob Marley, et dans lequel en fait absolument toutes les stars mondiales sont allées à un moment, et Wally était là. Donc il a fait des morceaux, il a enregistré, il a fait des trucs avec James Brown, il a fait des trucs pour Talking Heads, il a fait des trucs pour Grace Jones, etc.
Il a bossé avec Level 42 aussi.
Et en fait le mec, il est très peu connu, alors qu'il a une carrière de malade. Et l'épisode avec Ager Ben Boubaker, avec Vintage Arabe, effectivement, sur la musique arabe.
On n'avait pas passé beaucoup de musique, et c'était...
À l'époque, on le faisait pas encore.
Parce qu'à l'époque, on pensait pouvoir monétiser ses vidéos. Quelle erreur.
Non, par contre, tu sais quoi? Là, depuis qu'on met la vidéo sur Spotify, on peut regarder en vidéo maintenant aussi. On se fait strike chaque vidéo, je suis obligé de les éditer. Parfois, vous avez des versions un peu où il peut y avoir un extrait en moins, désolé, mais c'est parce qu'on...
Ah, s'il n'y a pas le truc dans la...
C'est hyper chiant. Voilà. Bon, on a un autre message.
Okay, bah merci François de Bruxelles, et très bonne suggestion.
Oui.
Ouais.
C'est vrai que c'est une super approche. Effectivement, après, ça s'est un peu perdu, mais...
On a fait l'émission avec Roche, notamment.
En fait, sur le business des labels, enfin, sur comment ça marche un label, mais le côté, tu sais, une esthétique musicale, comment un label a pu marquer toute son époque et toute une scène.
Bad Boy Records, Death Row Records,
par exemple.
Bien sûr.
Effectivement, il parle de Warp. On peut parler de Blue Note, tu vois, qui aussi a été quelque chose dans les soirées. Peut-être qu'on trouvera des manières de parler de tout ça, je sais pas. Allez, le dernier message.
Il dure aussi longtemps ou...
Non.
Ok, parce que j'ai chaud.
Yo, c'est Joachim.
Oh, Joachim,
c'est bon, je viens de réécouter, enfin de regarder l'intégralité. J'avais pas eu le temps de tout regarder, donc en revenant hier de Suisse, j'ai regardé toute l'émission.
En fait, figure-toi
laquelle
qu'il s'agit de Joachim Pastor, que nous avons reçu. C'est un invité, Joachim, qui nous laisse un message. Je continue.
Et j'ai trouvé qu'on n'avait pas dit trop de conneries, ça va. Il y avait quelques trucs, mais... et franchement, c'était bien. Vous faites un super taf. Je trouve ça hyper bien produit. C'est limpide. Voilà. Et donc là, j'arrive à la fin. Et puis, vous parlez du répondeur. Et vous dites que personne ne vous a jamais laissé de message. Donc, je me suis dit que j'allais cliquer dessus et puis vous laisser un petit message. Allez, à bientôt.
Merci, Joachim. Merci, c'est trop Joachim. Cool. Heureusement qu'il est là pour nous laisser des messages. Il y a le François, là, mais qui ça date de 6 mois. Et depuis, on n'en avait pas eu.
Mais après, j'avais même oublié que c'était encore actif, ce truc. Donc,
mais ça l'est.
C'est pour ça.
Si vous êtes encore là, après 2 heures d'émission, c'est que vous nous adorez. Vous avez raison. Ouais. Laissez-nous un petit message pendant l'été, là. On s'écoute ça à la rentrée.
Voilà. Allez, hop. C'est comme ça.
Bon, l'Onepsi, Lindo, merci beaucoup.
Merci à vous.
Pavarotti, Charlan, merci.
Marguerite Thiam,
effectivement. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant toutes ces discussions.
Bah, merci à vous,
merci
les gars.
Beaucoup. Avec plaisir.
Le meilleur pour la suite et.
Ouais.
À vous aussi.
Arrêtez de vous prendre la tête. Faites la musique que vous avez envie de faire.
Ouais,
si c'est du rap, bah c'est du rap et on s'en bat les couilles.
Bah oui, dans le sens, c'est Marguerite qui a dit les meilleures choses.
C'est sympa, toi, en ce moment, je sais pas.
Qu'est-ce qui se passe ?
Il veut sa première partie.
J'ai un traitement, j'ai un traitement magique. Hein.
Ah, c'est ça.
On fait tourner, parce que. Merci, évidemment. Aujourd'hui, c'était Sam et Alexis qui ont préparé le plateau. Et globalement, à la bouclette pour toute la saison. Merci, Daz, pour toute la saison.
Merci Salman.
Avec plaisir. C'était cool en vrai.
Merci à vous,
Thomas.
Désolé, je
ne vous ai
pas dit merci, mais merci beaucoup à vous deux.
Voilà. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir.
Vous, merci, d'accord.
Bon, si vous voulez nous faire plaisir,
ouais.
Je suis sûr que vous achetez des trucs parfois chez Thomas.
Bien sûr.
Oui, oui. Oui, moi je veux acheter là.
Il dit je veux acheter.
Les stylo box là, vous voyez ce truc là.
Ah ouais, pour faire du son comme ça avec Thomas. Ouais, c'est rigolo. C'est pas cher en plus.
C'est pas très cher, il y en a plein que tu peux combiner après, ça a l'air bien. C'est disponible sur Thomas.
Ouais, effectivement. Bravo, Marguerite, tu as déjà acheté des trucs chez Thomas.
Ouais, plein. Je suis full Thomas chez moi. C'est pas vrai. Déjà,
Tu vas dans les magasins physiques quand tu dois acheter des trucs pour la musique?
Ouais, mais je vais pas dire là donc.
Non, mais tu peux dire en tête que tu vas dans les magasins physiques, y'a pas de soucis.
Ouais, je vais dans des magasins physiques et pas Thomas.
Bah ouais,
mais j'adore le mug en tout cas. Et j'adore la typo, j'adore tout. Hein.
Écoute, si un jour tu veux un catalogue énorme en ligne, beaucoup de matos, super service client, c'est Thomas. Putain, t'as vu comme je le fais bien.
Là, je trouve que ça fait beaucoup.
Oui, ça fait trop.
Oui, c'est en ligne.
Franchement, je me sens boumeuse.
Par contre, c'est la livraison la plus rapide que j'ai jamais connue, ça c'est vrai.
Ça c'est vrai.
Et le retour client, il est grave bien, c'est un problème. Voilà,
non, voilà,
payé,
tu vois.
Frère,
en fait, il n'y a même pas besoin de le dire, tu vois.
Merci beaucoup.
Mais c'est la vérité.
C'est la vérité. Voilà.
Et évidemment, merci à François.
Mais bien sûr.
Pour toute la saison, d'ailleurs.
Et Morex, François, si vous avez l'occasion, allez regarder ces derniers reels là qu'il a fait où il parle de son synthé modulaire comme si c'était une vidéo de formation VHS de 1983. Elle est incroyable, franchement, bravo.
Il est fort.
François.
De toute façon, suivez François sur les réseaux, sur Instagram, etc. Oui. Memorex, que ce soit ses shorts qu'il fait avec Monte le son, la musique, il met aussi de la musique et tout ce truc.
Il
fait plein de trucs bien. Et enfin, bah vous, merci, de nous avoir suivis toute la saison.
Eh oui.
Désolé pour cette conclusion un peu longue, mais c'est spécial, c'est la fin de saison.
C'est la dernière donc.
Ouais. On se retrouve.
Enfin, c'est la dernière de la saison.
Ouais. Oui, on se retrouve en septembre.
Ouais.
C'est pas exactement quand, mais début mi-septembre, on sera là. Merci, ciao.